Bonjour à tous, ici Dada du montage. Je tenais à m'excuser par avance pour la qualité de mon micro. J'ai eu quelques soucis à l'enregistrement et vous allez voir, ça donne un résultat un petit peu étrange. Mais j'espère que ça ne va pas gâcher votre écoute. Je vous souhaite une bonne écoute sur Il y était un plus.
Hello there.
Bonjour.
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 Vers l'infini.
It's gonna be legendary.
Good to see you too, Pop.
Trois fois mille. Je compte même pas jusque là.
This is your king, George the Third.
C'était fun.
Telle est la voix.
Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne.
Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Je suis Émilie et pour cet épisode, je suis accompagnée de Charline.
Hey!
Linda.
Coucou!
Et Clémence.
Salut!
Alors, on vous retrouve comme le titre l'indique pour un épisode consacré à la danse, mais avant, en guise d'échauffement, on va parler de ce qu'on a vu récemment sur Disney+.
Alors, moi j'ai regardé ici récemment la série sur ordre de Dieu. Donc c'est un contenu qui a débarqué récemment, donc fin juillet sur Disney+, avec le merveilleux Andrew Garfield dans le rôle principal. C'est en grosse partie pour ça que j'ai regardé la série, je vous l'avoue.
Ah bah ça.
Alors, de quoi ça parle ? C'est une mini-série donc, de 7 épisodes d'une heure qui est inspirée du best-seller du même nom du journaliste John Krakauer et qui a été librement inspirée d'une histoire vraie, en tout cas pour la série. Le film, je pense que c'est un peu moins librement inspiré, mais la série, oui. Donc, le livre. Elle raconte l'enquête menée par Jeb Pyer, donc, qui est interprété par Andrew Garfield, et par Bill Taba, son coéquipier, suite au meurtre de Brenda Wright Lafferty et de son bébé en 1984 dans une petite ville mormone de l'Utah. Alors, au fur et à mesure de ces découvertes, l'inspecteur Pyer, qui est un fervent croyant en l'église, attention, respirez bien fort avant de le dire, en l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui va en fait révéler plein de secrets enfouis sur les origines de cette religion et mettre en évidence les dangers de la foi absolue. Alors pour moi, c'est une série qui est très très réussie, qui se base sur le principe qui est pour le moment très en vogue du true crime et qui est porté par un excellent, merveilleux, magnifique Andrew Garfield qui est comme d'habitude en fait rempli de nuances et qui nous fait ressentir avec brio vraiment toutes les souffrances et les émotions qu'un individu peut éprouver quand il voit que sa foi commence à vaciller. Déjà, la série, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ose poser les questions qui sont très importante et actuelle sur la religion ainsi que sur la radicalisation. Le tout dans une ambiance assez pesante, cinglante, qui fait des allers-retours entre la jeunesse du mormonisme et l'action présente. Donc c'est rempli de suspense et d'interrogations et c'est très prenant. Moi je vais mettre clairement 4+, parce que c'est vraiment à voir, mais c'est à voir dans de bonnes conditions, parce que c'est pas une série qu'on prend à la légère, on peut pas la regarder en faisant autre chose en même temps, il faut absolument y être concentré, parce que le contenu ça peut paraître assez lourd, parce qu'il y a énormément de références théologiques, il y a beaucoup d'allers-retours entre le passé, mais vraiment le passé donc à l'époque où la religion mormone a été créée, et l'époque présente où ça se passe, donc il faut vraiment être bien concentré, quoi. En plus, moi, je l'avais regardé en sous-titré anglais, il y a énormément de termes très spécifiques à la religion, donc il faut être préparé à ça, mais franchement, moi, je le conseille à 1000%, rien que pour la prestation de Andrew Garfield, ça vaut le coup.
Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, qu'il avait l'air très lourd.
Mmh. Ouais. Oui, oui.
Mais il me tentait bien, moi, en tout cas, pour Andrew Garfield, entre autres, mais...
Pour Andrew Garfield.
Ouais.
Bah, seulement.
Ouais. Non, l'histoire a l'air intéressante aussi.
Après, il n'y a pas que lui dedans. Il y a aussi l'acteur qui joue dans Avatar, qui fait le héros principal. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Sam Worthington, non, c'est pas ça ?
Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Qui joue d'ailleurs pas trop mal, je trouve. Comparé à Avatar, où je me disais, ouais, bof, là, ça va. Ça va, C'est quand même bien, c'est prenant, hein, mais je vous dis, c'est lourd, quoi. Il faut, intellectuellement, c'est quand même... ça prend de l'espace, quoi.
Ok.
Mais je vous la conseille.
Je me le note.
Moi, je pense que t'aimerais bien, Charline.
Ouais, non, à cause des vacances, c'était un peu compliqué. J'ai plein de choses à voir, donc j'ai pas eu l'occasion, mais c'est vraiment une série que je m'étais notée et qui est dans ma liste depuis qu'elle est sortie, quoi.
Et du coup, qu'as-tu regardé récemment, Charline?
Oui, parce que j'ai quand même regardé des choses, hein. J'ai pas rien fait pendant mes vacances. J'ai regardé un film pareil qui était sur ma liste depuis sa sortie et j'avais pas pris le temps de le regarder parce que je voulais le regarder avec mon mari puisque il est adepte de ce genre de film et du coup je l'attendais, mais lui il est beaucoup moins film que moi, le soir il est plus jeux vidéo, donc pour réussir à l'alpaguer, viens on regarde un film ensemble, c'est compliqué. Et du coup il s'agit de Fresh avec Sébastien Stan.
On sent pourquoi il est dans ma liste. Regarder des films juste pour les acteurs quand même, hein. Il faut...
ouais. Après moi je suis pas une grande fan de Sébastien Stan, donc
ouais. Et le pire c'est qu'il l'a reconnu, parce qu'alors il reconnaît aucun acteur, aucune actrice, hein, c'est une catastrophe. Et il l'a reconnu parce que il m'a dit si c'est le mec qui sert à rien dans Avengers.
Mais ça j'ai l'impression que c'est un truc très masculin. D'ailleurs je lance un sondage dans nos auditeurs. J'ai l'impression que c'est un truc très masculin de ne absolument pas reconnaître les acteurs et les actrices d'un film à l'autre, alors que nous, on va avoir tendance à aller regarder leur nom, leur vie privée, à faire « Ah, il a aussi joué dans ça, dans ça » et tout. Voilà, je lance un sondage parmi nos auditeurs, dites-nous si c'est vrai.
C'est clair. Bah, ouais,
je suis
tout à fait
d'accord, Johan. Mais lui, mais que ce soit les hommes ou les femmes, hein, il reconnaît personne.
Ah oui, moi aussi.
Par contre, Daisy Edgar Jones, elle joue aussi dans la série Sur Ordre de Dieu.
Ah, d'accord.
C'est elle qui fait la maman qui est assassinée au début de la série.
Ok, bah oui, parce que du coup il n'y a pas que Sébastien Stan, il y a effectivement Daisy Edgar Jones que je connaissais pas moi personnellement, et il y a même une française, il y a Charlotte Lebon, vous ne connaissez peut-être pas, mais elle faisait Le Grand Journal.
Elle n'est pas vraiment française, elle est québécoise.
Oui c'est vrai, c'est vrai. Oui, enfin elle vit en France, elle travaille en France.
Oui, c'est vrai. Elle a joué dans Yves Saint Laurent, le film le plus français dans la terre.
C'est vrai. Et bah,
c'est
voilà,
pas pourquoi je prends un accent anglais pour dire ça.
C'est un film français, mais avec un accent anglais.
Voilà, c'est ça. Français, parce que c'est beaucoup plus joli de parler la France avec un accent anglais. Voilà.
Hey, non, ça,
on garde le montage, on est d'accord.
Il est bon, ton accent, ton faux accent anglais.
Ouais, il y a quelque
ouais,
chose.
Il est pas chose. Mal, hein. Donc, du coup, pour en revenir à...
Je ne parle pas très bien français, mais je te remercie.
Mon Dieu. Bon, pour en revenir à Fresh, alors c'est un genre thriller, mais alors qu'il est totalement ok pour la team flippette. Il n'y a pas de, comment on appelle, de jumpscare. Vous savez, quand on sursaute, parce qu'il
se passe comme...
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas quasiment pas de sang, mais vraiment un tout petit peu vers la fin, mais vraiment pas beaucoup. Il n'y a rien de gore. En fait, c'est juste très malaisant et dérangeant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper malaisant et dérangeant, parce que tu imagines ce qui se passe, mais tu vois rien. Je sais pas si c'est très clair. Pour raconter un peu l'histoire, Sébastien Stan, il est cannibale et il kidnappe des filles pour vendre leur viande à d'autres hommes qui sont cannibales eux aussi. Que des hommes, hein.
Ah, ça a l'air très sympa comme film, quand même.
Ah, il aime bien tout ce qui est gore, thriller, tout ça. Je lui ai dit, c'est un film sur les cannibales, il a fait « J'arrive !» Ok.
Chacun son mariage, hein, Charline, on te juge pas.
Non, mais pour une fois qu'il y a un film un peu d'horreur, entre guillemets, que je voulais bien regarder, tu vois, il s'est dit, je fonce sur l'occasion, mais... Donc, en tout cas, voilà, c'est surtout malaisant, parce que tu imagines ce qu'il fait, mais sans forcément le voir, tu le vois manger de la viande, il y a des gros plans sur la bouche, la viande, etc. Mais à côté de ça, c'est vraiment pas gore, et donc ça se laisse bien regarder. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que tout le début, on a vraiment l'impression d'une comédie romantique, et c'est fait exprès, et puis au bout de 30 minutes, ça bascule, et c'est qu'au bout de 30 minutes, d'ailleurs, qu'on a le titre et le générique, et ça rend vraiment un effet sympa. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'esthétique. Avec Thibaut, justement, on a tout de suite pensé à Almodovar, on s'est regardé, on s'est fait « Ah, mais ça fait direct penser à ces films », que ce soit au niveau de l'esthétique ou des personnages et de leur complexité. Et quand j'ai préparé l'épisode, je voulais voir un petit peu, bah, du coup... Qui l'avait fait, le nom de l'actrice fille que je connaissais pas, etc. Et je suis tombée sur un article de la réalisatrice, qui est une femme, qui a dit justement qu'elle s'était inspirée d'Almodovar. Donc voilà, c'est effectivement une influence qu'on retrouve beaucoup. Donc bref, j'ai beaucoup aimé pour ce style de film. Le rythme est un peu lent, donc c'est peut-être pour ça que je mets que 4+ et pas 5. Mais en tout cas, je le conseille. Et pour la team Flippette, il est parfait.
C'est bon à savoir, parce que moi j'ai vu la... En voyant la bande-annonce, je trouve que tu comprends l'aspect cannibalisme, et en voyant ça, je me suis dit, oh, ça va faire des plans dégueulasses et tout. J'avais ouais. la sensation que le film allait verser dans le gore, mais bon, tu peux pas montrer ça dans une bande-annonce.
Mais non, pas du tout, du coup, vraiment pas.
Du coup, pour Sebastian Stan, je regarderai.
Ouais.
Et en plus, tu m'offres une super transition parce que moi aussi, j'ai regardé un film avec des gens qui mangent des humains, ça s'appelle Zombie. Sauf que c'est pas du tout dans le même registre, du coup, c'est absolument pas horrifique. C'est un film Disney Channel, c'est une petite comédie musicale.
Wow.
Sorti en 2018 et qui est devenu du coup une trilogie, mais là, j'ai eu le temps de voir que le premier. À savoir qu'au moment où il est sorti, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça a l'air tellement cringe ». Et en fait, c'est cringe, mais moins que prévu. Vraiment beaucoup moins que prévu. C'est, je me suis surprise à aimer ça. Donc, mais je pense, j'ai le souvenir que Tony en avait parlé il y a longtemps parce que sa fille l'avait un peu forcé à le voir et qu'il avait dit « Oh, finalement, c'est sympa ». Je confirme. Donc, de quoi ça parle, Zombie ? Ça se passe dans une petite ville américaine qui s'appelle Seabrook, où... Alors, ils expliquent quand même pourquoi il y a des zombies. En fait, il y a eu un accident à la centrale électrique qui fait que la moitié de la population a été transformée en zombies. Sauf que le gouvernement a développé des petits bracelets électroniques qui leur font des ondes spéciales qui les neutralisent, qui les calment, en fait, et qui font que, du coup, ils peuvent vivre une vie normale et ne pas courir tout le temps après des cerveaux humains. Sauf que du coup, c'est clairement une petite métaphore pour le racisme, hein, pour les enfants. Les zombies sont dans des quartiers à part, ils ont des règles plus strictes, ils peuvent pas fréquenter l'école, etc. Et là, c'est la première année que les zombies sont acceptés au lycée, même s'ils doivent faire face à de nombreux préjugés. Et donc face à ça, on suit l'histoire classique Roméo et Juliette de la pom-pom girl Addison et du zombie qui s'appelle Zed et qui veulent trop être ensemble, mais leurs amis disent « Non, tu ne peux pas être avec un zombie, vous voyez le genre. »
Oh, ça a l'air trop mignon.
En vrai, c'est mignon. Et franchement, le couple principal, ils sont mignons. Genre, ça fonctionne très bien ensemble. Du coup, j'ai bien aimé. Linda fait non de la tête. Pour donner le contexte aux auditeurs. Vas-y, Linda, exprime-toi.
Bah, c'est juste que le 1, il est bien, mais par contre, le 2 et le 3, faut pas le voir.
Ouais,
quoi.
J'ai vu que dans les suivants, il y avait des loups-garous et des aliens. Ça me parle un peu moins, mais bon.
Bah, à l'origine, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient faire, ou qu'ils espéraient faire au moins aussi bien que High School Musical, mais ça n'a jamais pris.
Bah, jamais pris, je dirais pas. Hein. Ça, j'ai l'impression que ça a quand même bien marché auprès de la nouvelle génération. Pas autant qu'un High School Musical, mais je veux dire, si ça avait pas pris, ils en auraient pas fait 3.
Alors c'est peut-être parce que je regardais plus trop Disney Channel à cette époque, mais moi personnellement j'en ai jamais entendu parler.
Ah ouais.
Moi non plus. À part sur le Discord effectivement il n'y a pas longtemps.
Ah, j'avais quand même vu pas mal de pubs au moment où c'est sorti.
Donc... Oui mais les pubs ça veut rien dire.
Ouais. Donc oui c'est très cringe, oui c'est rempli des clichés habituels de tout ce que vous voulez, des films type High School Musical. Néanmoins j'ai apprécié ce film comme un vrai plaisir coupable. Il y a des chansons qui sont très chouettes, bah, comme la fille est dans l'équipe de Pom Pom Girl, il y a des chansons bien punchy comme ça qui sont très sympas, et des tableaux de danse qui sont d'un très bon niveau et qui sont pour moi le point fort du film. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup le cas même dans les Disney Channel movies de ces dernières années. Quand tu vois un Teen Beach, un Descendant, tu vois qu'il y a un vrai effort qui est fait sur la chorégraphie, que les acteurs sont des gens qui savent vraiment danser. Et c'est super kiffant quoi, pour un adulte de regarder ces films-là, tu peux vraiment apprécier au moins les tableaux de danse. Donc je mets un 3+, parce que c'était quand même sympa.
Moi ça me tente pas, mais c'est parce que c'est Disney Channel.
Moi je suis pas très Disney Channel, mais ouais, j'ai bien aimé Descendant, et là juste pour l'histoire d'amour, je pense que je regarderai peut-être. En faisant autre chose, tu vois, en corrigeant des copies, ou...
En vrai ça vaut le coup.
Un truc comme ça. Et toi t'as regardé quoi, Linda ?
Bah moi je suis plutôt contente parce que Disney Plus a enfin mis un film de l'été. Bon, mis à part la série High School Musical, avec sa saison 3 qui se passe en camp de vacances et qui est vraiment vraiment trop bien.
Oui, la saison 3 est trop bien.
Et qu'on va pas vous reparler puisqu'on n'arrête pas de vous parler de cette série que vous avez absolument regardée sur nos conseils. Du coup, le film de l'été tant attendu, attention suspense, le titre est C'est l'été. Ils ont fait très original, de Lego Star Wars.
Oui, bah c'est bien, du coup. Hein. C'est plutôt positif.
Oui, mais bon, dans Star Wars, il n'y a pas trop d'histoires d'amour.
Et il y a des superbes histoires d'amour dans Star Wars.
Je suis d'accord, mais pas au bord de la plage, avec le soleil couchant.
Ah, c'est autre chose.
Avant que les fans Star Wars hérissent leurs poils à l'idée d'écouter ce synopsis, je vous rappelle que c'est un Lego. Donc, c'est fait pour être drôle. Donc, Lego a tourné cet épisode comme un épilogue de la dernière trilogie. Donc on retrouve tous les héros qui partent en vacances à bord d'un bateau de... pas d'un bateau, pardon, à bord d'un vaisseau de croisière qui s'appelle le Action. Ça serait pas d'ailleurs le vaisseau de Walt Disney World ?
On va faire du fact-checking. Enfin bref,
ils partent en croisière et Finn se retrouve alors séparé de tout le groupe et il rencontre trois fantômes, Obi-Wan, Anakin et Leia. Et chacun des fantômes raconte une anecdote de leurs propres vacances qu'ils ont vécues de leur vivant. Alors, j'ai bien aimé, parce que ça fait un peu vivre les personnages de la dernière trilogie, parce que moi, personnellement, je sais pas vous, mais la fin du 3 m'a un peu frustrée. Enfin, pas du 3, du 9, hein, bref, du dernier, du 3e de la dernière trilogie, vous avez compris. Je sais pas si c'est canon, mais en tout cas, comme c'est réalisé comme un épilogue de la saga Skywalker, on apprend quelques secrets des personnages. Et du coup, moi j'aime bien quand on apprend des petits trucs en plus quand même, c'est vachement chouette. Bon après, est-ce que c'est canon, est-ce que c'est pas ? Si vous êtes un fan Star Wars, dites-le moi, parce que franchement, ce qu'on apprend, je trouve ça plutôt pas mal.
Eh bien vous savez quoi ? Je vais poster la question dans notre Discord MSA, d'ailleurs si vous nous écoutez, allez sur le Discord MSA, et si on a une réponse avant la fin de l'épisode... On vous l'annonce.
Okay. D'ailleurs, j'ai fait le fact-checking, c'est bien la leçon. Hein. C'est pour sur à Walt Disney World.
Ah, mais je trouve c'est ça trop bien. Je trouve ça trop bien que le fait qu'ils partent en croisière, ça soit la même croisière qu'on trouve à Walt Disney World.
Bon, c'est du marketing, quoi. Hein.
Oui, mais efficace pour le coup.
Moi, je pense que l'oncle de Johan, il l'a regardé parce qu'il m'a parlé. Ah, t'as vu le Star Wars Lego, machin, etc. Donc, je pense qu'il parlait de ça et ils ont adoré. Parce que ses oncles sont super fans de Star Wars et tout ça. Et ils m'ont dit « Ah, c'était trop bien, c'était trop chouette, c'était rigolo. » Donc, maintenant...
Eh bien, on a une réponse sur le Discord !
Vas-y, dis-nous tout.
Ouais, applaudissements ! C'est Tony, même si je suppose qu'on va réveiller tous les autres fans Star Wars dans peu de temps et qu'un débat va partir. Eh bien, c'est Legend. Et l'argument, en plus, avancé, c'est... Dark Vador prendre des vacances.
Oui, c'est sûr.
Les gars, sérieusement.
Mais tu vois, il y a des petits détails. Enfin, je sais que sur l'histoire Lego, en général, le fait que ça parte en vacances et tout ça, ça peut être que légende, parce que de toute façon, les vacances dans Star Wars, les gars, ils font que cracher toute la journée et se combattent des méchants. Ils ont une vie tellement épanouissante qu'ils n'arrivent pas à partir en vacances. Mais par contre, sur les petits secrets des personnages, c'est dur de vous en parler sans spoiler. Bah ça je sais pas, mais bon, si c'est légende, c'est légende, hein. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça se colle vachement bien.
Non, il dit que tous les Legos sont légendes.
Bon, et comme l'a souligné Tony dans le Discord, ça marche pas, enfin il y a un truc qui passe pas, c'est Star Wars et les vacances. On a du mal à imaginer Obi en chemise hawaïenne, et on a du mal quand même à imaginer Dark Vador en maillot de bain, c'est compliqué. Et puis Palpatine qui sait faire la fête, enfin voilà quoi. Donc du coup, c'est un peu compliqué de mettre une note là-dessus. J'aurais envie de mettre un 4 plus, parce que c'est quand même une sorte d'épilogue fait à Star Wars avec des secrets, même si c'est légende, sur les personnages. Mais du coup, je vais mettre quand même que 3 plus, parce qu'on fait quand même un affront à Star Wars en faisant partir les personnages en vacances. Ça marche pas, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, quoi.
Bon, c'est la rentrée, donc le moment est venu de se remettre au sport. Nous vous avons donc sélectionné une petite liste de contenus sur le thème de la danse. On se demande qui a préparé cet épisode. Donc, chaussez vos pointes, vos claquettes ou vos baskets, et c'est parti. Et on commence avec une série Disney Channel qui va vous faire danser, mais qui va vous faire aussi voyager dans le temps.
Wake up and welcome to my world.
Bon, c'est pas du Lin-Manuel Miranda, mais ça s'écoute quand même.
Ouais, c'est
vrai. Jingle.
Oui, c'est reparti.
Hi, I'm Lin-Manuel Miranda.
Il est facile à placer à un moment d'autre, à un moment donné.
Ok. Okay. Donc il y a moyen de l'avoir deux fois peut-être.
Ouais, il est vraiment facile à placer. Mais non, mais faut arrêter là.
Vous allez voir.
En tout cas, sachez que pour vous, l'équipe d'Il était un plus se démène pour faire de la danse sur chaise de bureau depuis le premier épisode. À chaque générique, on est toutes les quatre en train de gigoter comme ça. Donc, on va parler de la série Lena rêve d'étoiles, ou Find Me in Paris, titre original.
Qui est une dans lequel série, alors... Emily a tourné quand même, a joué.
Oui,
elle oui, dans plusieurs épisodes. Il faut quand même le dire, on a une star parmi nous. Hein.
Carrément.
J'ai fait de la figuration, hein. J'ai fait 8 jours de figuration, mais c'était sympa, on en reparlera après. Alors j'ai noté que c'était une série franco-allemande, mais je pense que c'est plutôt au niveau des sociétés de production, parce que bon, déjà vous savez, ça a été en partie tourné en Belgique, et les acteurs sont américains, canadiens, britanniques, enfin c'est tourné en version originale en anglais en tout cas. On a 3 saisons pour 78 épisodes de 26 minutes. Et c'est une série qui a été diffusée sur Disney Channel en France et sur La 3 en Belgique. Et je me demande si elle passe pas toujours sur La 3 en Belgique d'ailleurs.
Ouais, peut-être le dimanche matin ou un truc comme ça.
Mm-hmm. Et donc de quoi ça parle ?
C'est là où il y a les meilleurs. Non.
Ça parle de Lena qui veut devenir danseuse et qui est en fait une princesse russe qui vit en 1905. Et un jour, son petit ami Henri lui offre un mystérieux pendentif et elle se retrouve à faire un voyage dans le temps et atterrir dans le futur en 2018. Elle atterrit dans le futur, mais elle est toujours à l'Opéra de Paris, donc elle réussit à intégrer l'école dans le futur slash qui est du coup notre présent et commence à s'habituer à sa nouvelle vie pendant que Henri part à sa recherche pour la ramener en 1905.
C'est trop cool.
C'était quoi cette voix grave?
Ouais, moi je suis d'accord avec Linda, c'est une série que moi j'aimais bien regarder, mais il y a quand même plus jeune, quoi. Ça fait longtemps que j'ai plus regardé, mais du coup, si pour l'épisode oui, mais je veux dire ça faisait longtemps que je l'avais plus vu, quoi. J'aime bien regarder quand ça passait en Belgique, c'est mignon, c'est plein de chouettes valeurs, il y a des sujets, des problématiques différentes, donc c'est bien pour les ados, les jeunes adultes, voilà. Et bon, c'est feel good, et ce qui est sympa c'est que c'est sur fond de voyage dans le temps, quoi. Et ça, vous savez tous que j'aime, les voyages dans le temps.
Non, non,
partie,
non. Faites la tête.
Voilà, je ne dirai rien d'autre.
Non, mais honnêtement, les voyages dans le temps, il n'y en aurait pas, ce serait la même chose. On regarde parce qu'il y a des belles histoires d'amour, d'amitié, parce qu'il y a de la danse.
Ah non,
parce
moi,
que c'est
mignon, le principe du voyage dans le temps, j'aime bien.
Oui, à la limite, pour moi, la partie voyage dans le temps, c'est la moins intéressante.
Merci, Émilie.
Ah non, moi j'aime bien. C'est pour ça que j'avais commencé à regarder, parce qu'elle voyageait dans le temps.
Ben moi j'ai regardé, non, j'ai regardé au départ parce qu'il y avait de la danse classique et moi j'ai fait vous savez, je sais pas si vous savez, 12 ans de danse classique. Donc wow. c'est vraiment une grande passion, j'adore ça, je vais souvent voir des ballets, donc j'ai regardé pour ça. Mais je trouvais ça cool qu'il y avait des voyages dans le temps, mais je trouve que c'est pas forcément bien amené, bien exploité. Ah, je trouve que c'est un peu là, et ça sert pas à grand chose, quoi.
Ça vaut pas retour vers le futur, ça c'est sûr.
Oh.
Ou bien Peggy Sue s'est mariée.
C'est quoi ça?
Oh, t'as jamais vu Peggy Sue?
Non, je connais que la chanson. Peggy Sue.
Ah bah ouais, bah on, il y a dans le film. Ah, oh, ça faut que tu le regardes.
Oui, mais comme c'est retour vers le futur et comme elle le verra jamais.
Non, mais Peggy Sue, elle va mille fois
mais
plus aimer parce
ça,
que c'est
ça me tente plus. Tu
Peggy
vois.
Sue, c'est une histoire d'amour, donc elle va beaucoup plus aimer. Ah. C'est une histoire d'amour aussi avec un voyage dans le temps. Elle fait un malaise un soir et elle se réveille en réto, enfin en dernière année de lycée, je sais pas comment on dit chez vous, enfin de secondaire.
Terminale, c'est la fin.
Terminale.
Ben voilà, et elle va fêter son bal et donc elle va essayer de changer son futur, quoi, en retournant dans le passé.
Ça ah, a si, l'air c'est mignon. À voir. Peggy Sue, c'est Marie. Oh, il y a Jim Carrey.
Ouais, il y a Nicolas Cage. C'est fait par Coppola en fait, Francis Ford Coppola.
Et il y a donc, Sofia Coppola d'ailleurs.
Ouais, toute petite, enfin toute petite, 12-13 ans.
Ah ouais, mais elle est sur aucune plateforme. Faut le trouver, ce film.
Ah ouais, moi je l'ai en DVD. Mais je suis sûre que t'adorerais.
Ouais, je pense aussi.
Et toi, Linda, qu'est-ce que tu en as pensé, à part c'est trop cool?
Bon, bah déjà, vous connaissez un petit peu mon avis. Alors, moi, à l'origine, je l'ai regardé parce que je savais pas comment on pouvait associer la danse classique avec les voyages dans le temps. Et juste ce petit mélange qui était, pour moi, un peu trop loufoque, un peu trop bizarre, je me suis dit, c'est totalement le genre de série qui me correspond et que j'adore. Et en effet, ça m'a séduit. J'ai regardé les 3 saisons d'affilée et j'ai re-regardé la saison 3 parce que tu m'avais dit que tu avais joué dedans. Du coup, après, je l'ai regardé juste pour te chercher. Et voilà. Non, non, j'ai vraiment adoré cette série. C'est une des premières séries que j'ai regardées sur Disney+, si je ne me trompe pas. Parce que j'étais vraiment trop fan de ce truc et ça passait vachement bien quand tu faisais du télétravail. Désolée, je suis malade.
C'était pour ça. Tes employeurs ne nous écoutent pas, Linda.
Normalement, non. D'ailleurs, je m'appelle pas Linda, hein, au cas où.
Ah ouais. Non, ben moi j'avais jamais regardé la série avant de faire la figuration et même après en fait, j'ai attendu qu'elle soit sur Disney+. Et bon, je pense pas que je vais la terminer, mais ça se laisse regarder. Il y a un peu le côté zombie où bon, tu sais que c'est plein de clichés, c'est plein d'incohérences, mais oh, c'est mignon et puis ils dansent bien et puis et voilà. Et donc ça se laisse regarder, on va dire. Il y a quand même un niveau de danse qui est très bon. Et du coup là, pour avoir vu les coulisses. Oui, j'aime me la péter, oui. Pour avoir vu les coulisses, non, vraiment, c'est chouette parce que, bon, ils sont tous doublés. Les acteurs sont tous doublés par des danseurs classiques professionnels. Et en fait, eux font une première fois la scène où on fait des plans sur leur visage et sur le haut de leur corps. Donc, ils bossent quand même beaucoup. Un peu comme Nathalie Portman dans Black Swan, tu vois, par exemple, tout ce qui est port de bras, etc. Les porter, ils doivent quand même bien les travailler. Et puis, ils doublent avec un danseur classique où là, on va plus le filmer de dos, de loin, faire des plans serrés sur les jambes, etc. Mais je trouve que le résultat marche bien. Et puis, ce qui est chouette, c'est que la plupart des acteurs, même s'ils ne sont pas des danseurs classiques professionnels, restent des danseurs de formation. L'actrice principale, Alena, on voit qu'elle a fait plein de danses, mais je crois qu'elle fait surtout du hip-hop, j'avais vu sur son Instagram. Le mec, le blond, là, j'ai oublié son nom maintenant. Son vrai nom, c'est Castle, ça, j'ai pas oublié. Mais bref, lui, c'est aussi un gars qui fait plein de hip-hop. Y a un autre dans la saison 3 qui vient de la comédie musicale, qui fait des claquettes. Et ça, c'est super chouette. Et il y a comme ça une scène dans la saison 3, vers le début de la saison 3, où en fait, le prof leur donne un défi et dit, bah voilà, vous allez recréer une chorégraphie que vous avez fait quand vous étiez jeune pour montrer comment vous avez évolué dans la danse. Et donc, chacun fait une choré, mais il y a du jazz, du hip-hop, des claquettes, etc. Et c'est super chouette à regarder. Et je me souviens que nous, sur le plateau, on devait juste les regarder et être genre content de regarder ce qu'ils faisaient. Et en fait, on jouait pas du tout parce que c'était génial. Tu vois, le mec, il commence à faire ses claquettes comme ça super bien. On était là, waouh! Donc, c'est chouette qu'ils aient pris des acteurs qui ont quand même une solide de base de danse, et surtout dans la série tu ne vois pas que du ballet classique.
Oui, c'est ça, au bout d'un moment tu vois même du hip-hop. Ils font en fait en plus du voyage dans le temps, ils ont fait un crew en dehors de l'école, dans toute illégalité, et donc du coup tu vois des battles de danse hip-hop, et c'est vachement chouette.
Non, moi je suis d'accord que ça c'était chouette. Moi ça m'a vraiment par contre perturbée pour la danse classique, de voir à chaque fois que le haut ou le bas du corps et jamais le corps entier.
Mais si tu regardes bien dans tous les trucs de danse, c'est comme ça, parce que ouais. Black Swan, ils sont obligés de faire ça aussi. Dans Red Sparrow, ça... là, avec Jennifer Lawrence, c'est aussi comme ça. Et là, là par contre, je trouve, petite parenthèse, mais dans Red Sparrow, pour ceux qui l'ont vu, Jennifer Lawrence, on voit qu'elle n'est pas danseuse, parce que même quand on filme que le haut du corps et qu'elle fait qu'elle juste ses bras, tu vois que c'est pas gracieux comme une danseuse. Là où Nathalie Portman, ouais. Elle a fait un travail de fou.
Ah, mais elle a pris des cours et ça se voit. Hein. Mm. Mais là, moi, ça m'a vraiment perturbée, parce que en fait, c'est pas juste un film. Où il y a aussi beaucoup de à côté, entre guillemets, tu vois, où Black Swan, il y a les morceaux, les moments de danse, bien sûr, mais il y a quand même tout le reste. Et puis, c'est, même si c'est un film de danse, c'est vraiment le côté thriller qui l'emporte, je trouve. Enfin,
non.
On en reparlera après. Mais par contre, là, c'est une série vraiment où, dans chaque épisode, t'as de la danse. Il y a 78 épisodes, donc tu tapes 78 fois des chorés où tu te dis... C'est pas la personne, tu vois, entre guillemets, enfin, où t'as pas vraiment des gens qui dansent complètement, où tu peux voir un morceau entier avec un plan d'ensemble, etc. Et ça m'a, au bout de, genre, pas du 78e, mais au bout d'un certain nombre d'épisodes, ça m'a dérangé et je me suis dit, bon, c'est quand même dommage, ils auraient pu prendre peut-être des vrais danseurs et filmer entièrement.
Bah, je pense que c'est pas facile de trouver, parce qu'une formation classique, ça te prend tellement tout ton temps et ton énergie, que je pense que ça doit pas être si simple de trouver des danseurs acteurs. Et puis là, on voit aussi qu'ils sont allés un peu... Allez, l'actrice qui joue Lena, c'est une poupée Barbie, la fille, tu vois. Ils sont allés chercher une fille super mignonne, super jolie. On avait pris une photo avec le dernier jour, parce que j'étais avec une autre fille pour la figuration. On s'est dit, on va prendre une photo souvenir avec les acteurs. Mmh. Et on était dégoûtés, parce que tu regardes la photo, tu te regardes à côté de la fille, je suis un concombre.
Un concombre. C'est une expression belge.
Non, du tout, mais tu sais, tu regardes la fille, c'est vraiment une poupée Barbie, toute bien maquillée, toute jolie et tout, et toi, t'es là à côté.
En transe, parce que t'as dansé pendant 3 heures, genre.
C'était un grand moment de solitude, mais bon, j'ai eu ma photo.
Moi, je veux voir cette photo.
Oh, faut que je la retrouve. Pour,
ah ouais,
pour
faut nos que tu la partages sur le Discord. Ouais.
Moi, je veux voir Émilie en tête de concombre.
Mais bon. Non, pour terminer sur la série, je trouve que le budget est, bon, pas incroyable parce que ça reste une série Disney Channel, mais il est correct parce que ouais, les effets spéciaux type voyage dans le temps et tout, bon, tu sens que c'est pas du grand art, mais ça passe, ça fait pas cringe, je trouve. Et par contre, les costumes sont vraiment chouettes. Il y a beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de danseurs, etc. Donc ça, c'est super chouette. Et je suis à peu près sûre qu'ils ont travaillé en collaboration avec l'Opéra de Paris. Du coup, c'est chouette parce qu'il y a des décors qui sont à l'opéra. Enfin, ils ont tourné à l'Opéra Garnier, par exemple, ça c'est chouette. Après, le résultat reste quand même semi-réaliste. Quand tu vois l'école de danse dans la première saison, ils l'ont mise en plein centre-ville. Ça ressemble pas du tout à ça, quoi. Mais bon, et voilà. Et puis. Bug. Bug, ça c'est
faux. Mais d'un point de vue architectural, cette école de danse, ça choque pas du tout. Hein. Enfin,
ça choque pas.
Non, mais à côté de l'opéra, on sait bien que...
Non, mais quand on connaît un peu Paris, on sait bien que c'est impossible. Oui, mais...
C'est ça. Non, l'école de danse, aujourd'hui, elle est à Nanterre, je crois. Mais bon. Et puis, ouais, d'ailleurs, on rentre pas à l'Opéra de Paris à l'âge de Léna. Normalement, je crois que tu rentres entre 7 et 9 ans. Non. Donc bon, ça reste qu'il y a des facilités scénaristiques, mais ça marche et ça fait semi-réaliste, quoi. Je trouve que ça fait le job, quoi.
Oui.
Ouais, semi-réaliste, c'est bien ça.
Mais de toute façon, je pense pas que cette série se veut réaliste, puisqu'on parle quand même de voyage dans le temps et de danse classique.
Oui.
Non, c'est ça.
Oui, non, mais en fait, ils essayent de faire genre le voyage dans le temps, ça a lieu à notre période, tu vois. C'est comme si c'était pas quelque chose de naturel. C'est vraiment, on vit toute notre vie, la lambda, et oh, il y a des gens qui viennent du passé, c'est extraordinaire. Mais le reste est censé être fait pour être réaliste. Mais après, oui, ça fonctionne, et franchement, j'ai passé des très bons moments. Moi, je l'ai regardé dans le train quand j'allais à Bordeaux, j'ai enchaîné les épisodes comme ça, et puis quand je préparais mon concours, je regardais en même temps que je révisais, parce que ça me permettait d'avoir un bruit de fond derrière, sans devoir être hyper concentrée dessus. Et franchement, ça marche bien, quoi. Tu passes un bon moment, c'est divertissant.
Tout à fait.
Je propose de passer au contenu suivant. Court-métrage de haute qualité qui va vous faire rire, pleurer, danser, chanter en 6 minutes chrono.
Effectivement, moi je suis pas très 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 court métrage. D'habitude, ce serait Dada qui présenterait d'ailleurs celui-là, normalement. Mais là, c'est pour une fois, j'ai adoré. J'ai vraiment passé un très 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 bon moment. J'ai pas vu les 7 minutes. Enfin, 7 minutes, je suis pas sûre que ça fasse 7 minutes. C'est 7 minutes avec le générique, non? Vous êtes sûre que ça fait 7 minutes? J'ai un doute.
Non, c'est 7 minutes avec le générique.
Oui, c'est ça. En tout cas, voilà, c'est un petit court-métrage qui est sorti en 2021, qui est réalisé par Jack Parrish, donc le responsable de l'animation sur les nouveaux héros. Mais c'est peut-être aussi parce que j'adore les nouveaux héros que j'ai aimés. Et donc, c'est Nous Toujours, qui est une magnifique histoire d'un couple. Ah, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une histoire d'amour que j'ai aimée. Et oui.
Il y a tous les ingrédients qui fait que tu aimes au final.
Il y a de la musique, de la danse et de l'amour. Ah ouais, là, on a la totale.
Et New York de nuit, non?
Et New York de... Oui, c'est vrai que c'est New York. Et New York
j'ai pas l'impression
nuit.
Que ça soit New York, non, parce York, qu'ils arrivent sur une jetée à un moment... Ouais.
Moi, j'aurais dit San Francisco ou quelque chose comme ça.
Oh, je cherche. C'est pas clair, en vrai.
C'est pas très clair, donc je suis pas sûre que ce soit important. Mais en tout cas, oui, c'est la nuit, c'est magnifique. Et c'est une nuit magique où, justement, un vieil homme et sa femme... Je crois que c'est le résumé Disney+, ou alors c'est Émilie qui nous l'a superbement bien résumé, mais un vieil homme et sa femme ravivent leur passion et leur énergie à travers la danse. C'est vrai, c'est toi ? C'est beau !
Poésie.
Donc, on va pas vous en dire plus pour ne pas casser le suspense, l'histoire, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est chorégraphié par le couple Keon et Marie, Ça devait précéder Raya et le dernier dragon au cinéma, normalement. Puis finalement, il est sorti directement sur Disney+, comme le film. Hein. Voilà. Voilà. Et comme le prochain, je vais râler.
Et oui, mais de toute manière, quand il y a des courts-métrages qui sortent avec des longs-métrages, en France, on les a une fois sur deux.
Ça dépend du cinéma.
Moi, je les ai jamais vus.
Faut choisir son ciné. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un sublime court-métrage. Moi, il y a toutes les clés qui fait que j'aime. Mais je pense qu'il a fait l'unanimité chez nous, non ?
Oui, clairement.
Oui.
Oui, oui, oui.
Oui, clairement.
En vrai, moi, je sais pas trop quoi dire sur ce film, à part qu'il est magnifique, tu vois. Et j'aimerais bien construire un avis construit et détaillé, mais en fait, il est juste génial. J'ai quand même noté, la chorégraphie est géniale parce que elle est simple et en même temps elle est brillante parce que chaque geste arrive à te dire quelque chose qui est un peu le concept d'une bonne chorégraphie, ce qu'est-ce que ça devrait être, mais là ça marche vraiment bien quoi. Et surtout en dessin animé, parce que c'est quand même pas si simple d'animer des personnages qui dansent, faut que ça arrive à faire un peu réaliste et que ça soit fluide surtout. Et là c'est fluide, c'est super rapide. Il y a des vidéos making of, j'étais tombée dessus, probablement que ça se trouve sur YouTube, où tu vois côte à côte le couple justement de chorégraphes et l'animation finie. Et c'est génial, quoi. Au mouvement près, c'est super bien recréé, c'est précis, c'est top. L'animation est super jolie. Il y a des jeux de lumière qui sont vraiment chouettes, puisque ça se passe en partie sous la pluie, le soir, sur une jetée qui est toute illuminée. Comme ça, c'est un cadre qui est très beau. Et ouais, je sais pas, en fait, moi, ce qui me scie, c'est tout ce qu'ils arrivent à mettre dans 7 minutes générique compris, donc dans peut-être 5 minutes de film. T'as une histoire d'amour, t'as tellement de choses qui sont dites alors qu'ils font entre guillemets que danser, t'as une chorégraphie qui est géniale, tu passes par toutes les émotions en 5 minutes chrono, c'est top.
C'est pour ça que moi je disais que ça me faisait énormément penser à La La Land, quoi. Dès que j'ai commencé à regarder, je me suis dit ah ouais, c'est La La Land. Enfin, il y a vraiment quelque chose, autant dans l'esthétique que dans la musique, le côté jazz, voilà, c'est... Ouais.
La musique j'adorais. Est très belle aussi, elle colle hyper bien avec chaque mouvement.
Ouais, ouais. On voudrait que ça dure plus longtemps, hein.
Que c'est même mieux que La La Land.
Ah non.
Je ne peux pas dire ça de La La Land, c'est le film où mon mari et moi on s'est embrassés pour la première fois.
Non, juste pour ça, on va dire que c'est trop bien La La Land.
Non, mais on peut pas comparer un court-métrage et un film. Voilà, c'est ça quand même pas la même chose non plus.
Mais il y a quand même des similitudes, il y a quelque
chose. Oui, non, mais quand je veux dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est compliqué de juger. De juger un court-métrage et un film, c'est pas... La promesse n'est pas la même.
Tout à fait, madame.
Alors, on a parlé d'une série, on a parlé d'un court-métrage. Maintenant, l'équipe I+, vous a également déniché un documentaire. Et je laisse Linda vous en parler.
Et du coup, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai enfin apprécié, parce que les documentaires, moi, ça fait 12. Donc, je triche un peu, c'est plus une série documentaire originale pour Disney+. Et du coup, c'est une série qui parle d'une école de danse en 6 épisodes, et comment ils ont construit le ballet de Casse-Noisette. Si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger si vous avez tout vu, moi j'en ai vu que 2.
Non, c'est ça, mais il faut noter que c'est pas n'importe quelle école de danse, c'est la School of American Ballet de New York, qui est donc, c'est l'équivalent ici de rentrer à l'Opéra de Paris, quoi. Enfin non, pas à l'école de danse de l'Opéra de Paris.
Les petits rats. Ouais. Il faut noter que la série s'appelle On Point.
Mais tu l'as déjà dit, ça ?
Non, je l'avais pas dit.
Il y en a une qui est fatiguée.
C'est le décalage horaire avec la Floride, ça encore.
Ouais,
c'est
oh là là, ce flex.
Ouais, c'est ça.
Excusez-moi, je rentre des États-Unis.
Ouais. Je reviens d'un séjour à Walt Disney World.
C'est le décalage.
Alors là, c'était quoi l'accent?
C'était l'accent bourgeois, voilà.
C'est le décalage horaire avec la Belgique, excusez-moi.
Alors moi, je vais vous parler de cette très beau documentaire que j'ai adoré. C'est un gros coup de cœur. Je pensais ne regarder qu'un épisode en faisant ma marche rapide à la salle de gym. Et puis j'ai oui, parce que je fais ça sur un tapis. Je regarde plein de trucs Disney Plus sur mon tapis parce que comme ça, bah, je joins l'utile à l'agréable, on va dire. Et donc je me suis dit, bah, je regarderai qu'un épisode parce qu'il y a d'autres trucs à regarder et tout. Et puis j'ai été tellement happée que j'ai regardé. Je crois que j'ai tout fini en un dimanche, quoi.
Que t'as marché pendant 6 heures?
Non, j'ai commencé à la salle et puis en rentrant le dimanche, j'ai regardé. Moi j'ai vraiment adoré. Déjà, on se prend d'une affection mais énorme pour tous les enfants. Déjà, on se rend compte que bah, leur seul rêve, c'est de danser dans la représentation du magnifique ballet Casse-Noisette. Les costumes, les décors sont merveilleux et ça fait incroyablement rêver. D'ailleurs, j'ai prévu d'aller voir le ballet cette année. Parce qu'ils viennent à Mons, au Théâtre Royal de Mons. Donc voilà.
Ce à quoi je t'ai écrit dans le document, oui. Clem, moi je suis allée le voir l'année passée. Ça reste très chouette, mais il ne faut pas t'attendre à la version qui te montre, la version de Balanchine qui te montre dans la série. C'est beaucoup moins grandiose.
Ouais.
Je me doute. La façon dont ils le font ici. Mais ça reste très joli et ça reste une très belle histoire, surtout quand t'as vu ça.
Bah, moi j'avais été voir le Lac des Cygnes déjà et à Bruxelles. Et ce que j'avais été un peu déçue, c'était que c'était pas l'orchestre qui jouait la musique. Tu vois, c'était une bande-son qui passait. Ouais. Et donc, j'étais un peu déçue. Ici, j'espère qu'il y aura un orchestre, mais
pourquoi, je sais pas. Pourquoi à Bruxelles, en plus, c'est bizarre.
Hein. Ouais, au Cirque Royal, c'était sans orchestre, malheureusement. Mais j'avais adoré, hein, c'était magnifique.
Oui, bien sûr. Mais c'est quand même une grosse partie aussi de voir l'orchestre.
Bah oui, ouais,
mais ça coûte beaucoup plus cher de faire tourner un orchestre avec ta troupe.
C'est ça. Ouais. Ouais, parce que moi, quand j'avais été voir Mamma Mia, il y avait l'orchestre qui jouait toutes les chansons. Ça n'a rien à voir, mais il y avait l'orchestre qui jouait toutes les chansons et tout ça, donc c'était plus gai, quoi.
À Paris, moi, j'ai été voir plein de ballets, hein, Roméo et Juliette, Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes, enfin, Gisèle. Et à chaque fois, j'ai eu l'orchestre et c'est vrai que c'est quand même...
Toi, t'es à Paris, je peux te dire que nous, chaque année...
Venez à Paris, venez.
Ouais, parce que nous, chaque année, en Belgique, on a le Moscow City Ballet qui vient, qui fait une petite tournée en Belgique, mais chaque année, ils reviennent avec Le Lac des Cygnes et Casse-Noisette. Ouais. Et j'en ai bouffé du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette. À un moment, t'as envie de voir autre chose, parce qu'il y a plein d'autres ballets dans le répertoire, et ils viennent toujours avec ces deux-là, toujours pour les fêtes de fin d'année. C'était mon petit coup de gueule. Ouais.
Mais si je me trompe pas, Bruxelles-Paris, c'est pas très loin en train.
Non. Quand il y a des trains.
Ben voilà, on va aller squatter chez Charline pour aller voir des ballets.
Ouais. Mais sinon, tout dans le docu, c'est... Gracile, voilà, c'est le mot que je trouve qui représente le plus le documentaire. C'est gracile, c'est rempli de magie, alors que on sent l'investissement des enfants, des jeunes, des moins jeunes, et c'est incroyable. Mais ça m'a quand même beaucoup fait penser aussi au personnage de Bess dans This Is Us, qui évolue justement dans le monde de la danse classique et qui voit son rêve un peu parfois. Gâchée parce qu'elle est noire, parce que plein de choses. Et ça m'a fait penser à certains moments à son personnage. Donc j'ai retrouvé un peu de mon This Is Us dans le documentaire. Donc ça ne pouvait que m'aimer.
Ouais, non, totalement d'accord. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire surtout, c'est qu'il montre de façon très réaliste que, en fait, les danseurs classiques, c'est des super-héros, quoi. Mais c'est montré de façon juste. Enfin, vraie. Où tu vois ces petits bouts qui ont... les plus grands, ils ont 14-15 ans et ils ont une maturité incroyable pour leur âge, parce qu'il le faut, parce que c'est des milieux où tu commences ta carrière et où tu finis ta carrière très très jeune et qui demandent énormément de travail. Ils font énormément de sacrifices aussi. Bon, ils ont des amis dans l'école, etc. Hein. Ce que je disais aussi, on voit que l'école leur permet de vivre une vie équilibrée, d'avoir des loisirs, etc. Mais ça reste que voilà, ça demande énormément de sacrifices en termes de temps, de faire attention à son alimentation, etc. Et ils sont super attachants parce que tu vois ces petits bouts qui sont super déterminés à atteindre leur rêve. Je trouve ça génial. Et je trouve ça bien que Disney Plus fasse ce genre de documentaire parce que ça montre un peu les vraies exigences d'une carrière de danseur et un peu moins le côté paillettes et tutus. Auxquels les gens sont un peu trop habitués. Et là, on voit que la danse classique, c'est un sport, c'est une vraie discipline, c'est extrêmement dur, et qu'en plus, on fait tout ça avec le sourire, quoi. Donc, j'ai trouvé ça génial.
Mais, vous savez que j'ai regardé la série, du coup, il y a Thibaut, quand Thibaut passe de temps en temps, hein, il regarde, tu vois, et il voyait tout ça, puis je lui dis, t'as vu, ça me rappelle des souvenirs quand t'as les pieds en sang à chaque fois, que tu dois mettre des pansements et tout tout le temps, etc. Et il me regarde, il me fait, mais en fait, c'est de la torture que vous vous faites. Je comprends pas l'intérêt. Je me dis, bah, parce que bon, à l'époque, d'accord, voilà, c'était beau. Et là, je dis, oui, mais c'est beau le rendu. Mais oui, mais pourquoi pour un rendu aussi beau, vous vous torturez? Et j'étais là, c'est beau.
Ouais, et puis surtout, tu fais tout ça avec le sourire. Moi, j'avais eu la discussion.
C'est un art de vivre, quoi. Ouais, c'est un art c'est de vivre. Ouais.
J'avais eu la discussion avec mon copain, avec quelques amis l'autre jour où lui fait du tennis. Et tu vois, au tennis, les gens, ils lâchent des petits « quand ils tapent dans la balle, tu vois, ils m'expliquaient « oui, c'est pour libérer son énergie, machin ». Je dis « tu sais, une danseuse, quand elle fait 50 pirouettes sur 5 cm carrés et un orteil, elle sourit, elle crie pas, elle est pas dans la démonstration de force, elle sourit, alors que ça demande un effort à tes muscles incroyable ».
Ouais. Et vous savez, pour la petite anecdote, le dernier ballet que j'ai été voir, c'était là cet été, j'ai été voir Gisèle à l'Opéra Garnier, et la danseuse s'est blessée.
Ah en oui, plein, c'est Alice en représentation.
C'est non, en pleine représentation. Non, comment elle s'appelle
Parce que j'ai vu un truc comme ça qu'elle s'était blessée. C'était censé être sa dernière représentation.
C'était censé être sa dernière, oui. Tu m'as dit comment.
Mais je crois que c'est Alice Renavant alors.
Ah oui, oui, c'est ça. J'ai mal entendu, pardon. J'avais pas entendu. J'avais mal compris le nom que tu as dit. Oui, oui, c'est ça. Et ça devait être sa dernière et elle s'est blessée et du coup ils ont changé de ballerine. Alors ce qui me fait rire, c'est que j'ai traîné Thibaut qui n'a pas remarqué qu'on a changé de ballerine et qu'elle s'est blessée sur scène. Pourquoi pas. Et elle est montée à la toute fin en pleurs pour pendant les adieux et en fait elle va refaire une année du coup.
Ouais, ah, c'est bien.
Mais c'est là où tu te dis que oui, effectivement, elle n'a pas fait une grosse pirouette hyper dangereuse, hein, mais un tout petit truc et sa cheville, fini quoi.
Comme du beurre.
C'est hyper dangereux, hein. Le nombre de gens qui arrêtent leur carrière de danseur parce que tu fais une mauvaise chute, c'est dingue. Bon, le film suivant, on était obligés de vous en parler puisqu'on fait un épisode sur la danse, c'est un classique d'entre les classiques, on va parler de Black Swan.
Alors, effectivement, on va parler du film Black Swan, qui est un film américain qui est sorti en 2010 et en 2011 en France, qui est réalisé par Darren Aronofsky. Le casting, une magnifique Nathalie Portman, un merveilleux Vincent Cassel, une très intrigante Mila Kunis, une vieillissante Winona Ryder. Et alors, donc, on y retrouve également le chorégraphe du film Benjamin Millepied, qui est devenu par la suite le mari de Nathalie Portman. Et le film a évidemment été un succès critique et commercial. Alors, bien le évidemment. Synopsis, c'est quoi? C'est Nina, qui est donc interprétée par Nathalie Portman, qui est danseuse de ballet et rêve d'obtenir le rôle de Reine des Cygnes dans le célèbre Lac des Cygnes. Elle serait parfaite pour interpréter Odette, le cygne blanc, mais le maître de ballet, interprétée par Vincent Cassel, la pense trop fragile pour danser Odile, le cygne noir. Sous la pression, Nina commence à avoir des visions et bascule peu à peu dans la paranoïa. Alors, que dire de ce film? Moi, c'est un film que j'ai trouvé incroyable pour la prestation époustouflante de Nathalie Portman, qui a plus que mérité son Oscar pour ce film, tellement on sent qu'elle s'est donnée mais corps et âme pour le rôle. Elle a perdu beaucoup, beaucoup de poids pour interpréter une danseuse classique. Elle a passé énormément de temps à apprendre la danse classique. Du coup, c'est comme ça qu'elle s'est rapprochée de son mari. Et alors, en plus de la prestation de Nathalie Portman, c'est l'ensemble du casting, pour moi, il fonctionne vraiment très, très, très bien. Vincent Cassel, c'était l'acteur parfait. Franchement, je n'aurais pas imaginé un autre que lui pour interpréter le personnage du maître de ballet. Il y a le côté, ce côté un peu leader, et puis le duo avec Portman, c'est parfait et un peu angoissant comme ça. Et en même temps, il y a un côté jouissif dans la relation, un peu sadomaso comme ça, un peu étrange, on ne sait pas trop, qui fonctionne à nouveau très très bien. Bon, et alors ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un film qui parle de la danse classique, mais en même temps, on se dit que c'est qu'un moyen utilisé qui est là pour raconter l'histoire de Nina, quoi. Ça aurait très bien pu être une autre discipline, ça aurait été bien raconté aussi, quoi. C'est bien, je trouve que l'ambiance a été bien choisie, quoi, parce que y a le côté éthéré du ballet qui apporte un vrai plus, Et en même temps, il y a ce côté film un peu proche de l'horreur. Il y a des moments où on bascule vraiment dans l'horreur, où on se dit waouh, mais est-ce qu'on est vraiment encore en train de parler de ballet là? Et donc, c'est le mélange est vraiment très intéressant et ça en fait un film magistral, il faut le dire.
Là, je suis pas d'accord de dire que ça aurait pu être n'importe quelle discipline. Je trouve que pour ça, justement, il fallait. Bon, il y a le sport de haut niveau aussi, de manière générale, mais.
Ouais, c'est ça. Vu moi, j'imaginais plus ça. Sur...
Ouais, c'est
vrai. Tu vois, peu importe le sport.
Sur la recherche de la perfection au point que ça en devient une obsession et que ça te bouffe en fait.
Ouais.
Pour ça, l'univers du ballet classique est parfaitement bien choisi parce que le ballet vrai. Classique, c'est la recherche constante de la perfection, parfois au mépris de ta santé. Et c'est... J'aurais pas vu ça dans un autre domaine. Et en même temps, je crois que j'avais lu qu'à la base, Darren Aronofsky voulait faire un film sur une actrice de Broadway. Et que ça porterait alors plus sur en fait la frustration d'être éternellement dans l'ensemble et de pas être dans la lumière. Au final, on n'est plus vraiment là-dessus. C'est vraiment sur, pour moi, c'est plus sur la recherche de la perfection que sur le fait de vouloir être la première danseuse, même si ça va avec. Mais non, pour moi, ça marche trop bien dans l'univers du ballet, quoi.
Il y a quand même aussi cette recherche-là d'ombre et de lumière parce que. Allez, au début, tu sais pas si Nina va vraiment accéder au premier rôle, si, tu vois. Donc, il y a quand même cette frustration aussi de se dire, est-ce que je vais enfin succéder à Winona Ryder? Est-ce que je vais enfin, moi aussi, briller? Donc, il y a quand même, je trouve qu'il a pas abordé que la recherche de la perfection. Il aborde plein d'autres sujets qui peuvent être aussi pas spécialement liés à la danse. Mais je trouve que le contexte de la danse s'y prête super bien, quoi.
Ouais. Non, c'est vrai que t'as aussi sa mère qui est super abusive, par exemple.
Bah oui, c'est ça.
Ça, c'est
dingue. Ouais. Moi, j'avais lu que, en fait, ça parlait peut-être même justement d'abus, d'un but peut-être un peu incestueux de la mère avec la fille. Enfin, qu'il y avait eu toute une recherche aussi autour de ça, où ça pouvait aussi parler de ça, quoi. Le fait qu'elle soit aussi abusive, aussi contrôlante avec elle, ben en fait, ça pouvait... sous-jacent, il y avait peut-être une histoire d'inceste, de mère abusive avec son enfant...
Ah bah elle a l'air totalement abusive, oui, oui, hein, oui. Elle fait flipper. Hein.
Ouais, clairement.
Mais tout le film fait flipper. Hein.
Mmh. Oui,
tout le film fait flipper.
Oui, à fond.
Ouais, ça j'ai noté, c'est vraiment pas un truc à voir avec des enfants, voire avec des ados, parce que moi je pense que je l'avais vu la première fois, genre vers 14 ans, et que ça m'avait quand même choqué comme film.
Ouais.
Là je l'ai revu, ouais, je l'ai trouvé génial, je l'ai trouvé excellent, mais ouais, il est trash, c'est pas à voir...
Dès la première demi-heure, tu bascules en fait. Pendant une demi-heure, ça va. Et puis, il y a un moment, quand elle prend le métro, en fait, et que tu commences à y avoir comme ça des... Où elle a l'impression de se voir habillée d'une autre façon et tout. Là, tu te dis, voilà, il y a un truc qui est en train de tourner un peu effrayant. Et après, tu peux plus te rattraper, quoi. C'est fini, ça bascule.
Ouais, et puis la dernière demi-heure, c'est carrément horrifique, je trouve. Hein.
Oui, clairement.
Quand elle est assez vive. Enfin, oui, on va pas spoiler non plus.
Non.
Non, mais ouais. Pour faire le rapprochement avec le documentaire juste avant... ici il te montre aussi je trouve l'univers de la danse de façon très brute voire même violente en fait parce qu'on est, on n'est pas dans la même ambiance, on a un documentaire avec des enfants, ici c'est un thriller horrifique mais c'est montré de façon vraiment brute et sans artifice et il y a quelques petites scènes comme ça qui sont placées mais allez quand on la voit qui s'occupe de ses chaussures, qui pense ses blessures au pied etc, ben ouais c'est une réalité et là tu le vois vraiment, enfin tu vois le sang, tu vois qu'en fait elles se détruisent les pieds tous les jours, tu vois la séance chez le kiné où elles se font craquer de partout parce que ça c'est une demande énorme pour le corps. Tu as ça, et puis tu as aussi la compétition constante, qui est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans le documentaire, parce que c'est tourné autrement, et puis j'ai l'impression que cette école a l'air d'être un environnement très sain, tant mieux. Mais là, tu le vois dans le film, que c'est constamment « je dois être meilleur que l'autre, je dois être plus mince qu'elle, je dois être meilleur qu'elle, lancer ma jambe plus haut, etc. » Et qu'il y a un peu cette... Oui, c'est ça, cette compétition constante. Donc c'est encore plus réaliste. C'est même très brut et parfois un peu violent, mais c'est pas exagéré, je trouve. C'est pas du tout exagéré. J'aime bien parce que je retrouve mes notes, j'ai noté donc importance de montrer la danse classique au-delà des clichés. CF, Kendall Jenner qui pose en ballerine avec des pieds affreux et mille autres exemples. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était justement Kendall Jenner qui avait posé il y a quelques années pour je sais plus quel magazine. Déguisée vraiment en ballerine puisqu'elle n'a rien d'une ballerine, hein, sorry. Et alors il lui mettait des pointes et elle se mettait sur pointe, mais bon, ses pieds étaient évidemment affreux, ses lacets étaient pas du tout bien faits, enfin il y avait vraiment aucun respect. Et je me souviens que les danseurs s'étaient excités sur les réseaux sociaux en disant SVP, respectez notre art, quoi. Genre nous on est là 12 heures par jour dans un studio à travailler nos pieds pour se faire représenter par Kendall Jenner qui sait même pas comment on fait ses lacets, quoi. Et y en a plusieurs comme ça si tu cherches un peu. Tu vois où le mannequinat, le monde de la mode,
reprend les codes de la danse.
Ouais, c'est ça. Mais reprendre un peu les codes de la danse, mais comme on disait, paillettes et tutus, sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et mais bon, Kendall Jenner, ouais, allez voir sur Google Images, c'est vraiment, c'est un manque de respect.
Oui, tapez Kendall Jenner ballerine et vous tombez directement ouais. sur des pieds moches.
Des pieds moches, c'est vraiment ça.
Je vous ai envoyé les pieds moches en privé.
Enfin bon, c'est la petite parenthèse. Oui. Non, sinon, effectivement, Nathalie Portman, elle est incroyable. Et j'avais lu que sa doublure ouais. a très peu servi. Enfin, peu servi, c'est un être humain. Mais elle, a peu, elle a peu filmé pour le film. En fait, elle a vraiment fait bah, les gros plans sur les pointes et puis les mouvements très techniques, par exemple les fouettés. Enfin, quand tu dois faire 25 pirouettes d'affilée, Nathalie Portman ne saura pas le faire, malgré tout l'entraînement qu'elle a pu avoir. Mais en fait. Énormément des scènes de danse, c'est bien elle, et c'est magnifique, elle a une façon de bouger qui est géniale et qui marche super bien pour un lac des signes. Mm.
Mais là, pour le coup, on en parlera dans notre dernier contenu du lac des signes, mais je trouve que le ballet est bien choisi, quoi, parce qu'il correspond bien quand même, vu la fin, à l'ambiance qui cherche à être donnée dans ce film.
Ah oui, clairement. Bah, c'est un des rares... Enfin, non, des rares, non, mais c'est un ballet qui n'a pas une fin heureuse. Quoi. T'aurais pas pu faire La Belle au bois dormant, ça marchait pas.
Non. Bah, Gisèle non plus. Hein.
Ouais.
Mais y en a, mais moins. Et puis... Non, ça collait bien. Non, je suis... Ouais.
Bon, bah dans ce cas, je propose de passer à autre chose, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ballet classique depuis le début de l'épisode, et bon, c'est quelque chose qui revient souvent comme sujet, mais il n'y a pas que la danse classique dans la vie, et il n'y a pas que les films d'horreur à base de signes, donc on va bouger un petit peu plus.
Donc nous allons vous parler d'une série qui n'a pas bercé mon adolescence, mais plutôt mes études, merci Sandra. Nous allons parler, et je m'excuse pour la prononciation parce que je sais que je le prononce mal, surtout grâce à l'argument d'Emily, mais nous allons parler de Shake It Up.
Eh hey, là c'était yeah, pas mal,
c'était magnifique.
Voilà, bon je me suis entraînée quand même. Donc c'est une série américaine Disney Channel qui a été sortie entre 2010 et 2013. Il y a eu 3 saisons. 75 épisodes de 23 minutes, et c'est surtout la série qui a lancé la carrière de Zendaya et de Bella Thorne.
Et donc, je disais en off, mais on le redit maintenant, Zendaya jouait quand même comme ses pieds dans cette série.
Mais elle non, jouait comme toutes les actrices de Disney Channel à l'époque, en
non
fait.
Non,
je suis pas Bella d'accord. Thorne, parce que
Bella Thorne, c'est pas si mal.
Ouais, c'est
ouais, mais
Thorne
dans tous les cas, c'est très exagéré, très un peu dans le ridicule.
Maniéré à crever.
Voilà, ouais, c'est maniéré, c'est ça le mot. Ils jouaient tous comme ça dans les séries Disney Channel de l'époque.
Je suis d'accord, c'est pépite. La tête de Clémence, c'est pépite. On peut pas vous la montrer, mais.
C'est vrai, elles font tout le temps des trucs comme ça. Elles font des grimaces.
Oui, elles font des pauses. Elles font des. C'est comme la danse Vogue, là. Tu fais des pauses dès que tu dis une phrase. Mais et pourtant Zendaya a une meilleure carrière maintenant que Bella Thorne large qui...
ouais. Mais c'est pas elle qui crevait l'écran pendant la série.
Non. Après je pense que Bella Thorne, les clichés d'elle nue etc, ça a pas aidé quoi.
Ouais, c'est sûr.
Ça a un peu niqué sa carrière je crois.
Non, puis je l'ai vue dans des séries où elle est jolie, mais elle est jolie et c'est tout quoi. Il y a pas d'émotion, il manque quelque chose. Je trouve que son jeu d'actrice a pas forcément évolué, là où Zendaya elle est capable de nous faire ressentir vraiment quelque chose.
Moi, je l'ai vue dans le film où elle est un enfant de la lune. Là, elle a une maladie qu'elle ne peut pas aller au soleil et donc elle vit la nuit.
Ah oui.
Moon quelque chose, là. Ouais, une histoire d'amour et
c'est
elle chante.
Vieux.
Et,
enfin, oui, j'ai vu ça.
Ouais, c'était pas dingue, quoi.
D'ailleurs, le générique est chanté par Selena Gomez et je viens de l'apprendre à l'instant. Merci, Emily.
C'était pas son meilleur tube non plus.
Non.
Si, c'est toute mon enfance, ce truc.
Après, c'est pas la meilleure chanteuse non plus, c'est Selena Gomez.
Et Emily, elle me fait trop rire parce qu'elle me dit c'est toute mon enfance. Et moi, mais j'avais 18 ans, tu vois, quand je le regarde.
Moi, j'avais plus de 20 ans, s'il te plaît. Je l'ai jamais vu, ce truc. Enfin, si,
je crois qu'on est passé à côté, nous, Charlie. Bah, ouais, c'est pas notre génération, grave. Les trucs Disney Channel et tout.
c'est mon délire.
On était déjà trop vieille pour ça. Hein.
Bah oui,
moi j'ai la chance d'avoir une sœur qui est à peu près le même âge que moi, qui est même un peu plus vieille, et donc du coup je continuais d'être bercée dedans même pendant mes études, mais sinon...
Alors vu la qualité, je suis désolée, mais je sais pas si c'est une chance.
Si, parce que ça non mais parce qu'il y a d'autres contenus qu'elle m'a donné.
Franchement, c'est pas touchant comme truc.
Oui.
Mais j'ai regardé hein, du coup, j'ai fait l'effort. J'ai pas accroché. En fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué, outre effectivement le jeu d'acteur hyper maniéré et exagéré, et j'ai beaucoup de mal, c'est le côté où j'avais la vingtaine hein, quand c'est passé, et je vois leurs fringues, j'avais l'impression que c'était diffusé du coup 10 ans encore avant.
Ah, c'est dégueulasse.
Oui, c'est vraiment un style début
des années
2000.
Mais c'est un truc de fou, parce que c'est même pas moderne en fait à ce niveau-là. Non. Ils ont 10 ans de retard.
Ouais.
Donc c'est ça qui fait que j'ai beaucoup eu de mal avec cette série.
Bah, après, soit dit en passant, il n'y a personne qui s'habille comme elle hein, dans la série, on est d'accord. Même 10 ans avant.
Non, ouais, mais c'est...
Oh, 10 ans avant, si. Moi, quand je regarde les vêtements que j'avais quand j'avais 14 ans, le multicouche, là,
oui.
Hyper coloré, c'était la mode.
Mais oui, mais quand t'avais
ouais,
14
mais à
ans.
À ce point, c'est aussi ça. Accessoirisé, ça.
Oui, c'est... avec la ceinture à clous oui. Au-dessus et, le truc, et la mitaine fluo. Et,
mais oui.
Ah non, sûr. Moi, je suis pas passée par cette phase-là, je suis désolée.
C'était un peu le style tectonique, tu vois.
Exactement.
En fait, on est en train d'en parler, mais on n'a même pas expliqué le synopsis.
Oui,
le synopsis
pour les gens. Vas-y, Linda.
Mais Charline a besoin de s'exprimer sur cette série.
On le sent.
J'étais tellement déçue. Je m'attendais. En fait, je connaissais pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait Zendaya et Bella Thorne. Je vois le truc. Je fais oh, une série qui danse avec Zendaya et Bella Thorne. J'étais mais emballée. Je fais mais c'est trop bien et tout. Et en fait, j'étais tellement une grosse déception que voilà, faut que ça sorte.
Donc, comme vous l'aurez compris, finalement, c'est une série qui parle de danse. Hein Sissi et Rocky, qui sont deux meilleures amies qui ont 13 ans toutes les deux, rêvent de devenir danseuses professionnelles et décident du coup de commencer leur carrière en participant à leur émission de danse préférée, qui est l'émission Check It, et elles sont engagées comme figurantes dans Check It Up pour pouvoir
danser.
Pour pouvoir danser. Et au final, c'est très mignon parce qu'en plus de ça, avec leur embauche, elles découvrent aussi le monde des jeunes adultes, la première carte bancaire, les premières responsabilités.
Le premier téléphone, elles veulent s'acheter un téléphone, machin. Ouais.
Et ouais. J'avais exactement le même téléphone que Sissi quand j'étais petite.
Oh là là, la classe. Alors, j'ai le droit de dire que
non,
je n'ai regardé qu'un seul épisode?
Vas-y, dis.
Je n'ai regardé qu'un seul épisode. Du coup, que dire si ce n'est que c'était consternant. Hein.
Bon, merci.
Un décor en carton-pâte, franchement, t'as peur.
Mais c'est Disney Channel.
Ouais, mais non, mais les deux Allemands blonds.
C'est pas ça à
là.
Chaque fois parce qu'on est en train de se dire que Disney Channel est nul, du coup.
Ouais, la série Disney Channel est un sous-genre à part entière avec ses codes qu'il faut savoir apprécier. Oui,
d'accord.
L'acting est ridicule. Oui, le décor est mauvais, mais. On est là pour ça. Oui, il y a des rires préenregistrés, mais on est là pour ça.
Oui, mais dans Friends aussi, il y a des rires préenregistrés, mais c'est génial.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais laisse-les démonter la série et après, on fera l'éloge.
Est-ce qu'on peut dire déjà les deux Allemands blonds, là ? Qu'est-ce que c'est que ce cliché avec leur accent dégueulasse ? C'est honteux.
Ils sont drôles.
T'as regardé en VF ?
Ouais, je la regarde. Oh oui, hein. Ah oui, je la regarde en VF. Hein. Je me suis dit, je vais pas non plus taper ça en VO. Hein.
Moi, j'ai voulu le regarder en VO parce que je me suis dit, bon, au moins, on aura leur vraie voix et pas le vieux doublage dégueulasse de l'époque où c'était moche, quoi. Mais quand tu le mets en VO, il y a même pas les sous-titres. Ils existent pas sur Disney+.
C'est honteux, Disney+.
Honteux. Du coup, oui, je me suis tapé la VF.
Alors, il y a pas que ça qui est problématique. Déjà, l'appartement de la mère de Sissi, là. Hein, qui est exagérément grand et beau, alors que elle est policière, quoi. Elle est policière à San Francisco.
Et policière,
non, là,
et
je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord.
Et mère célibataire. Non, mais c'est
non,
impossible
mais
d'avoir un appartement comme ça. Mais c'est comme dans Friends. Dans Friends, c'est
oui,
pareil.
Voilà.
Ils ont des énormes appartements, alors que voilà leur vie.
Et il l'explique dans Friends.
Ouais,
hein.
Ouais, oui, mais bon, ça reste quand même bancal comme explication, Charline. Oui, j'adore Friends, mais il faut être honnête. Mais là, c'est tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cet appartement où tous les aliments sont en plastique? tout, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Tu regardes les pommes dans des corbeilles qui sont en plastique, tu te dis, mais pourquoi ? Tout le monde a compris que c'était en plastique. Zendaya, comme tu l'as dit, elle joue mal, mais mal ! Et je comprends pas pourquoi, parce que quand tu regardes Euphoria, tu te dis que c'est pas la même personne. Il y a eu un truc, elle s'est fait enlever par des extraterrestres, on lui a appris à jouer et elle est revenue sur Terre, parce que c'est pas possible. Non, non, je suis désolée. Je sais, Linda, que tu aimes, mais je suis désolée.
Clem est en train d'assassiner mon enfance à un débit pas possible.
Moi, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire de négatif.
Bon, moi, je veux bien reconnaître que ça m'a fait un peu de mal de la revoir aujourd'hui. Ça, je peux admettre, parce que oui, j'avais une image nostalgique de cette époque-là où le matin, avant d'aller à l'école, je regardais Shake It Up et Bonne Chance Charlie et Phineas et Ferb et toute pleine de séries qui étaient trop bien.
Bonne Chance Charlie.
Et j'en profite pour placer mon fun fact.
Phineas et Ferb, j'adore.
Phineas et Ferb, c'est la base. Franchement,
c'est la base. Regardez Phineas et Ferb. Génial.
Mais j'en profite pour placer ce fun fact incroyable que j'ai découvert. Il y a Disney Channel India qui a, au lieu de prendre des séries Disney Channel existantes et de les doubler, tout simplement, ou de les sous-titrer, etc., de les mettre à la télé, eux, ils se sont dit, les gars, on va refaire nos propres versions de ces séries. Et donc, en Inde, il existe Shake It Up, mais avec deux garçons, qui s'appellent Neil et Yash, mais il existe également des séries comme Bonne Chance Nikki ou La vie de palace de Karan et Kabir. Celle-là m'a achevée. Et genre, vraiment, allez voir sur YouTube, ça vaut le détour. C'est... En fait, c'est vraiment c'est la même idée de base. Je pense pas que les épisodes sont les mêmes de l'un à l'autre. Déjà, je trouve ça dommage que dans Shake It Up, ils aient mis deux garçons. Peut-être que culturellement, ça passait moins bien. Bon, je sais pas. Mais allez voir, franchement, ça vaut le détour. Il y a le même côté carton-pâte et rire préenregistré, mais c'est des Indiens. Je trouve ça génial qu'ils se sont dit « Non, vos séries américaines, on n'en veut pas. On prend le concept, mais on va mettre des acteurs de chez nous. » quoi. C'est... Ok. Voilà, voilà. Donc, allez voir ça sur YouTube. Mais du coup, pour revenir à Shake It Up américain, oui, l'acting est extrêmement exagéré et maniéré, comme disait Clem. Les rires préenregistrés, c'est fatigant. Le style vestimentaire est fatigant aussi. mais il reste un petit truc de nostalgie. En fait, il y a un truc qui m'a déçu aussi, c'est que... Alors, les chorégraphies sont très chouettes. À chaque épisode, les filles vont à un moment tourner sur le plateau de l'émission, et donc tu as bien à chaque fois une minute trente de vraie danse, et ça fait trop plaisir. Ils prennent vraiment des bons danseurs. Alors, c'est un style beaucoup plus hip-hop, moderne, mais c'est super sympa, franchement. À chaque épisode, ça fait plaisir. Par contre, on voit que Bella Thorne et Zendaya, c'était pas des danseuses aussi expérimentées que les gens avec qui ils sont, et donc ça colle pas, parce que tu vois ces deux petites filles. Qui danse bien, c'est pas ça, mais bon, c'est
non,
pas...
Non, elle danse pas bien.
Bon,
non,
si, danse allez, pas ça
bien. Non, très
elle
clairement bien.
S'il y a un c'est défaut... le premier truc qui m'a choqué quand j'ai lancé la série, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est une série sur la danse et elles savent pas danser.
Non, allez, elles savent bouger, ça va.
Elles savent faire trois pas de tectonique et puis c'est tout, quoi.
C'est vraiment ça, je suis d'accord.
Ouais, bon, ok.
T'as vu, tu critiques quand même, Linda, hein.
Non, mais s'il y a bien... Le seul défaut de cette série, c'est ça, c'est qu'elles savent pas danser.
Le seul. Moi, je m'étouffe.
Non, ok, c'est vrai, non. Tu vois en tout cas qu'elles sont pas à leur place sur une émission de danse, et ça, c'est dommage. Bon, après, les deux petites, elles sont mignonnes. Enfin, je veux dire, leur amitié fonctionne super bien. Je trouvais ça trop chou. Y a quand même des gags qui sont chouettes, donc ça m'a fait plaisir. Je vais pas me retaper les trois saisons, mais j'ai pas eu l'effet Timon et Pumba où ça m'a détruit mon enfance de le revoir, tu vois. Je l'ai revu, je suis bon, c'est daté, c'est un peu cringe, mais ah, ça fait quand même plaisir.
Alors, moi, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Emily, mais. J'ai pas ce côté nostalgique où ça m'a détruit un mythe de mon enfance, puisque comme je l'ai découvert à 18 ans, je savais que c'était kitsch à souhait et hyper mal joué. Mais c'est ce que je recherche en fait quand je regarde une série Disney Channel. Je cherche pas le talent inné, je cherche pas une œuvre d'art comme Black Swan qui m'a fait étrangement peur. Non, je cherche vraiment un film soft qui me fait passer un bon moment et qui me permet de passer mes 20 prochaines minutes dans la bonne humeur et dans la bonne entente. Et alors, par contre, je suis d'accord, elles savent pas se danser là-dessus, elles savent bouger les bras, mais c'est tout. Du coup, je pense même que je vais me retaper les trois saisons parce que j'aime bien ce genre de contenu quand tu fais autre chose.
Bon, allez, ça va, on vous pardonne quand même.
Non, mais
vous
c'est
étiez
ça.
Mignonne. Oui, c'était voilà, mignonne en parlant. Allez.
J'avais 18 ans, j'étais pas si jeune que ça. Par contre, Emily, c'est un bébé.
Oh, vrai. Si tu verras quand t'auras 30 ans, t'auras l'impression qu'à 18 ans, t'étais jeune.
Mais j'ai déjà 30 ans.
Mais là, 30 ans.
Ah, non, oui, c'est vrai.
Mais c'est gentil de penser que je suis.
Mais oui, je croyais que t'avais un an ou deux en moins que moi.
Elle est à l'âge de DLP.
Ah, bah oui, c'est vrai.
C'est beau ça.
C'est classe, hein.
Ouais, c'est classe, j'avoue.
Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait, la série Disney Channel, c'est vraiment un sous-genre, il y a une manière de jouer, mais d'ailleurs j'étais tombée sur TikTok sur un gars qui faisait exprès de se moquer en fait des séries Disney Channel et il recréait, enfin il l'a joué à la manière Disney Channel avec des rires préenregistrés et des « oh là là, petit polisson », tu vois.
What mais do you en... do you do?
entre nous, entre un cop rock qui est surjoué ou un shake it up qui est mal joué, je préfère encore regarder Shake It Up que Camp Rock.
Oui, parce que Camp Rock a vraiment un
zoom sur les visages et tout. Et, et c'est vraiment...
Camp Rock, c'est passé. Hein.
Moi, ouais, ça m'a pas c'est choqué. Passé, mais si tu revois aujourd'hui...
Si tu regardes l'acteur, c'est pas peut-être. Ouf.
Faudrait que je le regarde.
Je le regarderai jamais, je tiens à vous le dire.
Par contre, personnellement, je ne souhaite jamais avoir une fille comme ça. Enfin, franchement, t'as envie de la frapper, là, finalement.
Ouais, non,
laquelle
Non, Shake It Up.
Ouais, laquelle des deux?
Bah, les deux.
Hein? Ah oui.
Oui, c'est sûr.
Bah, tu penses qu'elles sont hyper actives, quoi.
C'est ça.
Un petit coup de gélatine, ça leur ferait du bien, ça c'est sûr.
Non, mais la différence, c'est que Shake It Up, c'est une série d'humour, donc quand ils exagèrent, tu sais que c'est pour faire de l'humour, quoi. Alors que Camp Rock, c'est
donc ça.
Non, mais Camp Rock, ils se veulent sérieux. C'est pas sérieux, mais ils se veulent sérieux.
Bon, dans tous les cas, on aura toujours la team Disney Channel de notre côté et la team anti-Disney Channel de votre côté.
Amen. Mais je suis pas anti-Disney Channel, il y a 2-3 trucs que j'ai bien aimés, mais Phineas, c'est pas mon délire. Ouais.
J'aime pas Phineas, Bon, c'est pas grave, on enchaîne.
Linda, elle est toujours à contre-courant. Hein.
Voilà.
tout le temps.
Bon, allez, on termine avec une super chouette série qui va encore nous ramener au Lac des Cygnes et je vous dirai après pourquoi ça m'énerve. Mais... voilà, sur une série qui parle de candidats de télé-réalité. Comme ça, on fait bien un mix de tous les genres possibles.
It's a dance reality show. It's called The Big Leap. I'm going for it.
Really?
I'm gonna audition.
I'm getting my life back.
Why is this all of a sudden so important to you?
Don't you see? This could change my whole life.
How am I supposed to pull off a production of Swan Lake with no real dancers?
I don't know.
We are gonna dance like everybody is watching. Are you ready?
I'm turned on and terrified at the same time.
Donc il s'agit de la série The Big Leap. C'est une série américaine qui a été diffusée sur la Fox en 2021-2022 et qui est basée sur la série de télé-réalité britannique Big Ballet. Alors c'est compliqué, et Emily a commencé à dire télé-réalité, série sur la télé-réalité, bref, ça a été un micmac avant de réussir à comprendre. En fait c'est bien une série de fiction qui... Dans lequel on a des producteurs qui filment une télé-réalité. Un peu comme, pour ceux qui connaissent, la série Unreal sur Canal+. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une série géniale, je vous la conseille, mais à 1000% si vous avez Canal+. Pareil, sur c'est le Bachelor et ils filment la production. En fait, ils montrent comment ils filment le Bachelor, mais tout est faux, hein, c'est un faux Bachelor, etc. Et comment la production manipule les images, les personnages et tout. Enfin, c'est hyper stylé.
Ouais, ou même un peu comme dans la série Thunder Mifflin, la The Office. Finalement, c'est un documentaire sur la vie de bureau. Et, mais en fait, c'est une série, mais ouais. C'est le même principe. Quoi.
Bah là, donc, c'est le même style. Et donc, il y a une saison de 11 épisodes de 45 minutes. Et malheureusement, il n'y aura pas de saison 2, puisque ça a fait un flop. Et donc, ça a été annulé.
C'est dommage, parce que ça se termine sur un cliffhanger, en plus.
Donc, ouais, après...
On n'a rien dit d'autre.
Mais non, on n'est pas en train de raconter. Ouais. Mais on doit bien dire quand même si c'est une suite ou pas, Linda.
Oui, mais pas que c'est qu'il y ait un cliffhanger à la fin. Hein.
Bah si, c'est pour parce qu'il y a des gens qui ne voudront peut-être pas regarder parce qu'il n'y a pas de fin de la saison 1. Ce que je pourrais comprendre.
Mais elle a pas fini, c'est pour ça, je crois. Non,
mais oui, un épisode et demi.
Ah.
Mais tu vois, moi je sais que si on me dit la série elle est annulée, bah en fonction de s'il y a une fin ou s'il y a un gros cliffhanger ou pas, je vais regarder ou pas regarder, quoi. Après, malgré ça, moi je trouve que en fait la fin elle est quand même assez ouverte. Ça permet de on peut s'imaginer la suite sans forcément avoir à la regarder. Et du coup, ça ne m'a pas choquée. Il y a quand même des histoires qui se terminent, donc ça ne m'a pas choquée. Mais voilà. En tout cas, l'histoire, donc, c'est certaines personnes qui traversent des étapes difficiles et qui vont tenter de changer leur vie en participant à une télé-réalité donc sur la danse, même si eux ne font pas de la danse. Et cette émission de télé-réalité va rassembler justement des danseurs amateurs pour monter une version moderne du Lac des Cygnes. Même si... Je vous avoue que moi j'ai eu du mal à comprendre parce qu'ils dansent aucun danse du classique, mais ils montent une danse.
Complètement irréaliste.
Ouais.
C'est vraiment, mais what the fuck, parce que t'apprends pas la danse classique en un mois, quoi.
Non, c'est non. Ça. Et c'est... Bon, j'y reviendrai après, mais oui, frustration.
Ouais. Mais après, au fur et à mesure des épisodes, je trouve que ça, ouais. Ça s'explique, ça se justifie. Enfin, ils arrivent à en faire ouais. quelque chose, quoi. Mais au début, pendant tout le début, j'étais là en train de me dire, mais vous allez vraiment danser le classique ? Vous dansez comme des pieds, là.
Mais ça fonctionne quand même, au final.
Au final, ça fonctionne quand même, parce qu'il y a un petit tournant, et voilà, on va pas spoiler, mais finalement, là, ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, je voulais te remercier, Emily, parce que ça a été vraiment un coup de cœur, cette série, j'avais pas prévu de la voir, je la connaissais pas du tout. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé. Il y a un truc qui m'a un peu dérangée. Alors, je dis que j'adore, mais je commence par ce que j'ai pas aimé. Il y a un truc qui m'a un peu dérangée au début, c'était le fait qu'il y ait quand même plein de personnages hyper clichés. Et au final, en fait, j'ai... Enfin, c'est comme dans une vraie télé-réalité. C'est-à-dire que quand on voit la télé-réalité française, tu vas prendre la pleureuse, tu vas prendre la meuf qui a un fort caractère, tu vas prendre le gay un peu foufou, enfin, etc., etc., etc. On va prendre vraiment des gens qui ont... qui rentrent dans des cases, qui ont une étiquette. Et bah là, en fait, c'est pas vraiment cliché, c'est juste qu'ils ont pris ces gens qui ont des étiquettes. On a la fille grosse qui n'aime pas son corps, enfin, qui veut danser malgré que les gens ont un regard du coup négatif sur elle. On a la femme qui est malade et qui veut se battre. Enfin, oui, c'est cliché au final, mais en fait, les personnages sont choisis parce qu'ils rentrent justement dans ces cases-là pour la télé-réalité. Donc au final, ça ne m'a pas dérangée. Et j'ai trouvé tous les personnages hyper intéressants, hyper attachants. Il n'y a pas de grands méchants, même le connard.
Ouais, bah non.
Tu lui trouves des côtés attachants et tu l'apprécies à certains moments. Et ça, je trouve ça vachement bien. Il y a de l'amour. Donc forcément, moi, je suis à fond dedans. Hein. Big up à Paula et Mike. Paula, en plus, interprétée par Piper Perabo. J'adore. On a déjà parlé de Coyote Girl.
Coyote Girl.
Et voilà.
C'est tout.
Clémence chante.
C'est tout pour moi.
Le seul truc, à la rigueur, tu vois, vraiment, c'est qu'il n'y aurait pas eu la danse, ce serait un peu pareil. Je trouve que là, en fait, il y a peu de morceaux de danse. Je l'ai regardé quand j'étais à Budapest, donc je le regardais dans l'avion. Et l'après-midi, quand on était couché tard, le matin on se lève tôt pour se balader, l'après-midi on faisait des petites micro-siestes d'une heure, je le regardais et ma pote à côté, quand je lui ai expliqué le concept, elle me fait « mais je comprends pas, j'ai jamais vu de danse, à chaque fois que je regarde, ils dansent pas ». Donc je dis « oui, ils dansent pas trop ». Mais au final, c'est pas dérangeant.
Ouais.
Et après, je vous laisse la parole, j'arrête de parler. Bonus, il cite Lin-Manuel Miranda.
Ah, oh, je suis pas encore arrivée à cet épisode-là.
Hi, I'm Lin-Manuel Miranda.
Donc une série où il parle de Lin-Manuel Miranda, direct...
On ne peut qu'apprécier. On ne peut qu'apprécier.
On ne peut qu'apprécier, exactement.
Non, mais dans ce cas-là, Lin-Manuel Miranda est quasiment dans toutes les séries, parce que je sais plus, c'était dans... How I Met Your Mother, il parle aussi
ouais.
de...
Ouais, How I Met Your Father, ouais.
Quand ouais, il y a la Father, ils en parlent.
Non, mais il y a dans How I Met où c'est aussi les...
Ils en parlent pas, il vient.
Mm-hmm.
Il joue dans How I Met Your Mother. Il en parle pas vu qu'il joue dedans.
Non, ouais, il parle même de que le prix des places de.
Non, c'est pas dans How I Met Your Mother.
Non, ça c'est dans How I Met Your Father alors peut-être.
Ouais, et dans il y a d'autres séries aussi où il parle des places d'Hamilton. Il y en a beaucoup même.
Voilà, c'est ce que je dis. Dans ce cas-là, Lin-Manuel Miranda est partout.
Mais oui.
Bah. Mais là, il cite son nom. D'habitude, il parle d'Hamilton. Voilà, j'ai pas eu de place pour Hamilton. Ou... Mm. Ah, c'était... Si, il y a une série où ils disent aussi... Je l'ai vu il y a pas très longtemps, je me rappelle plus laquelle. Où ils disent... Ah, c'était une superbe comédie musicale. J'en ai pas vu une aussi bien depuis Hamilton.
C'est rentré dans la culture, hein, maintenant.
Ouais,
clairement.
Bon, pour revenir à la série, effectivement, celle-ci, je trouve... Alors, je l'ai conseillée... Enfin, je l'ai conseillée, non, je l'ai mise dans la liste, mais je l'avais pas vue, hein. Au moment où je l'ai mise dans la liste, juste sur Disney+, je suis tombée dessus en tapant danse, je me suis fait « Oh, ça a l'air sympa, ça, on va le mettre dans le truc !» Pour se constater que c'était sympa. Non, mais effectivement, ici, c'est une série où la danse est juste un vecteur pour l'histoire et n'est pas mise en valeur. Parce que c'est censé être des amateurs qui aiment danser, mais qui savent pas forcément bien danser... Donc les numéros de danse sont pas ouf. Il y en a quelques-uns qui sont très sympas. Notamment dans l'épisode 1, il y a un moment, un mec qui lâche son plus beau hip-hop dans
oh
un
oui
bowling.
Justin.
Fabuleux.
Genre oh là là, il est trop
dingue.
Chou.
Mais hormis ces quelques exceptions, bah, la danse reste assez médiocre. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faut regarder la série. C'est vraiment juste un vecteur pour l'histoire. Moi, en vrai, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était attachant, que c'était original, même si, comme tu disais, oui, t'as des personnages qui sont très clichés, mais au final, on se laisse prendre au jeu, et ça permet de voir plein de sujets différents. Moi, j'aimais bien c'est... Genre, je retiens jamais leur prénom dans cette série, je sais pas pourquoi, mais donc, du coup, je l'ai noté, c'est Julia. C'est celle qui... Donc, c'est une ex-danseuse, elle, et en fait, est devenue, tu vois, une influenceuse 50+, qui prêche le bien vieillir, le positive aging, et en fait, on voit que derrière ça, bah, elle a une peur chronique de vieillir, quoi, et que c'est pour ça qu'elle fait ses petites chroniques, etc. Mais donc, à travers tous ces clichés, ils arrivent à aborder beaucoup de sujets, et c'est ça aussi qui fait les bonnes séries, c'est quand tu peux aborder plein de sujets de société comme ça. Y a aussi tout le côté télé-réalité qui est super chouette, enfin super chouette non, qui est super malsain, mais qui est très bien montré. C'est avec le producteur qui, montré, ouais,
qui est un peu jouissif,
vraiment
quoi.
Il les pousse comme ça à sortir des trucs horribles. Il va vraiment fouiller dans leur intimité et sans gêne, quoi. Il dit bah c'est mon métier, moi je dois aller chercher des trucs croustillants, etc.
En même temps, tu lui en veux pas.
Oui, non, c'est ça, parce qu'il est aussi honnête, il le dit cash direct. Vous signez pour je vais déterrer la merde, tout ce que je vais pouvoir trouver sur vous, je vais le dire, je vais le faire. C'est ça. Quoi.
Et je suis sûre que c'est pas exagéré.
Il y a ce côté, en fait. Non, c'est sûr que non. Mais j'avais une pote quand j'étais à la fac qui avait fait la télé-réalité, et française, et qui me disait que c'était un peu ça, tu vois, par exemple, personne ne fait rien aujourd'hui, tu veux pas aller faire une blague, vas-y, à un tel, histoire de faire qu'il se passe quelque chose.
De faire monter la sauce, quoi.
C'est ça.
Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais du coup, je trouvais ça intéressant. Il y a une scène qui m'a bien fait rire, c'est celle où ils arrivent dans les studios le premier jour et ils sont censés découvrir les studios où ils vont travailler. Et alors, tu vois les réactions de tout le monde, ils font « Waouh, c'est trop beau, c'est génial, qu'est-ce qu'on a de la chance d'être ici et tout. » Et puis, « Ah non, il y a eu un truc technique ou je sais pas quoi, re-rentrez dans l'ascenseur et ressortez et refaites-nous la réaction. » Tu dis « Ah, allez, quoi. » Mais bon. Non, moi, le seul truc c'est qui m'a fatiguée, j'ai regardé 2 ou 3 épisodes, j'ai pas encore eu le temps de la terminer, mais le seul truc qui m'a fatiguée, c'est pourquoi encore et toujours le lac des cygnes, quoi. Alors oui, c'est connu du grand public, mais c'est ça qui me fatigue, justement, c'est que c'est le seul ballet connu du grand public, avec peut-être Casse-Noisette quand les fêtes arrivent, et j'en ai un peu marre qu'on ressorte toujours le même, et surtout qu'ici, comme on disait, ça fonctionne pas. Ils prennent des danseurs, et ils le disent dans l'épisode 1, on cherche des danseurs de tous horizons, donc ils prennent des gens qui font du hip-hop, qui font de la danse de salon, en fait, il y en a même aucun qui fait du classique, je pense, dans le casting. Y a Julia qui est une ancienne danseuse de classique, ouais. Mais ils prennent vraiment des gens de tous horizons, c'est ça qu'ils viennent chercher, et puis ils disent on va monter un ballet classique avec des chorégraphies classiques. Et là, je dis allez, ça, je comprends pas. À la limite, j'aurais compris s'ils avaient monté un lac des cygnes, mais avec, tu vois, un numéro de hip-hop dedans, un numéro de danse de salon, un numéro de claquettes, tu vois, un truc beaucoup plus varié. Là, on voit ces gens qui savent pas danser du classique, sont pas des danseurs classiques, ça marche pas. Et pour moi, on aurait pu... Enfin, ils ont perdu l'occasion de nous montrer plein de styles différents.
Mais t'as pas été jusqu'au bout de la série, en
fait. J'ai pas été encore jusqu'au bout.
Ouais, c'est ça.
Non.
Okay. J'allais dire, parce qu'après... En fait, je trouve qu'au début, c'est vrai qu'il y a ce côté très rigide qui est lié au fait à la coach, la prof de danse classique. Et après, bon, sans te spoiler, il va y avoir quand même de l'évolution, etc. Moi, comme vous, j'ai trouvé que c'était une super chouette petite série, comme vous dites, avec des défauts, mais je trouve qu'au final ça passe assez bien, et on surprend à vouloir regarder l'épisode suivant. Et moi, je pense que le choix du lac des cygnes, mais c'est plus pour le côté un peu universel, quoi.
Je comprends,
ça donne du bon storytelling, tu vois.
Je comprends, mais ça me fatigue que ça soit toujours le lac des cygnes, quoi.
Ouais, je comprends.
Ils auraient pu faire la même chose avec une comédie musicale sur Roméo et Juliette, tu vois.
C'est clair. C'est des histoires qu'on a trop vues, trop entendues. Et ici, ça n'a pas de sens. Allez, un Black Swan, ça marche super bien de prendre le lac des cygnes, parce que ça participe à l'histoire. Ici, franchement, ils auraient tout aussi bien pu monter un spectacle original, quoi.
Bah moi ça me dérange pas, parce que justement ça donne un fil conducteur à l'histoire aussi, tu vois, où tu peux comparer certaines personnalités dans la télé-réalité aux signes blancs, d'autres aux signes noirs, tu vois, un peu le chassé-croisé des personnalités, etc. Donc moi ça m'a pas spécialement gênée, pourtant c'est vrai qu'on en voit beaucoup le lac des cygnes, mais ça m'a pas gênée. Moi j'ai trouvé justement que c'était assez moderne de mêler le ballet avec d'autres danses, comme on voyait. Donc on voyait des scènes de ballet, mais on voyait aussi des scènes comme Justine dans le bowling, etc. Et tu vas voir qu'après ça va être plus valorisé, quoi. C'est vrai qu'au début tu dis un peu mais pourquoi est-ce qu'ils dansent pas leur domaine de prédilection. Mais après ça va quand même évoluer, je trouve. Et comme Charline, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la relation Paula et Mike. Voilà. Mmh. Et puis, je sais pas, le personnage de Paula, il est tellement vrai, tellement courageux et tout. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour elle. Et alors, je voudrais dire également que celle qui interprète Julia, c'est l'actrice qui joue la petite copine dans Mon beau-père et moi, avec Ben Stiller, là.
Ah, oui,
quand il veut épouser la fille de De Niro, ouais. Bah, elle joue la fille de De Niro. Mmh, voilà. Moi, j'adore ce film, donc j'ai dit « Ah, oh, c'est elle !» J'étais toute contente. Voilà, c'est tout.
Alors, moi, j'avoue que ça a été un gros coup de cœur, parce que j'ai découvert la série en faisant cet épisode, et j'ai pas réussi à me décocher. En fait, j'ai dû me faire violence parce qu'il y avait d'autres contenus à regarder. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que je l'ai regardé juste après The Black Swan. Donc du coup, on continue sur le lac des cygnes. Et en fait, grâce à Black Swan, j'ai pu raccrocher certains wagons. Et donc voilà, enfin bref, j'ai adoré. Mais par contre, j'ai un gros coup de gueule à passer sur Disney+. C'est que quand tu tapes « danse » en français, eh ben, il confond avec le mot « dent ». Et donc, il te donne tous les films qui se rattachent ou qui ont le titre. Dans le titre, il y a le mot « dent ». D-A-N-S. Par contre, si tu tapes danse avec un C sur Disney+, donc à l'anglaise, là, par contre, tu tombes vraiment sur les contenus reliés à la danse. Et ça, franchement, je trouve que la barre de recherche de Disney+, est inadmissible. Il faut qu'ils trouvent une solution. Pourrie, hein. Mais c'est plus
que pourri, là. J'ai l'impression qu'on le dit à chaque épisode.
Oui, mais à chaque épisode.
Non, mais tu vois, quand tu tapes pas le nom d'acteur, tu retrouves pas le film. Et même quand tu tapes le mot en version française, tu trouves rien.
Disney+, si tu nous écoutes.
Voilà. C'était mon petit coup de gueule de la fin.
Et bien sur ce, on va passer à la conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous faire un retour sur les réseaux de Main Street Actu, sur le Discord. Venez nous rejoindre sur le Discord, on s'amuse bien. Le troisième meet-up est en pleine organisation. Toutes les informations sont comme d'habitude dans la description de l'épisode. Alors, grosse annonce, on vous donne rendez-vous le jeudi 15 septembre, je répète, jeudi 15 septembre, pour un live spécial consacré au Disney+ Day, qui sera cette année le 8 septembre. Et pas en novembre, donc ils ont chamboulé tout notre planning d'épisode, mais c'est pas grave.
On s'adapte.
Non, je râle parce que le 8 septembre, je suis en vacances. Donc... Mais du coup, comme l'année passée, à l'occasion du Disney+ Day, on vous propose de passer la soirée avec nous pour refaire la liste de et commenter toutes les annonces de cette journée spéciale, toutes les bandes annonces, les sorties qu'on aura eues, les petits événements à Disneyland Paris, etc. On refera le point là-dessus. Rendez-vous ensuite le vendredi 7 octobre pour votre épisode mensuel qui sera cette fois consacré à nos sorcières préférées de Hocus Pocus.
Oui!
On vous laisse avec un extrait de fin du documentaire On Point. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre chez MSA World? Sachez que Main Street Actu sort un épisode le 9 septembre qui sera un débrief du voyage à Walt Disney World d'Olivier. Restez connectés, je pense qu'il y a beaucoup qui l'attendent celui-là. Et Imagination Street sort son prochain épisode le 5 septembre qui vous emmènera dans la quatrième dimension. Tintintin. Et sur ce, c'est le moment de vous dire à plus sur Disney+.
Ciao.
Salut. Bye. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mountain.
Le plus dur avec ce casting, c'est d'avoir conscience que certaines d'entre elles ne pourront pas monter sur scène cette année. Elles vont être tristes et déçues. En tant que mère et en tant qu'être humain, ça ne fait jamais plaisir. Allez-y, entrez.
Bonjour.
Alignez-vous le long de cette barre. Mais je dois faire les meilleurs choix possibles pour la réussite du spectacle, et je leur fais comprendre. Si vous n'êtes pas prise aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas une grande carrière. Nous devons simplement choisir celle qui correspond le mieux au rôle à cet instant précis.
Ici la dada du montage. Pour vous souhaiter une bonne rentrée à tous et une bonne nouvelle saison avec l'équipe d'Il était un plus, je vous offre un petit bêtisier. Ce passage provient au moment où Emily a introduit Black Swan et que Clémence est intervenue.
Bon, le film suivant, on était obligé de vous en parler puisqu'on fait un épisode sur la danse. C'est un classique d'entre les classiques. On va parler de Black Swan. Elle fait tellement jeune. Je regarde les photos d'Alice Renavant avant. Moi, je voudrais donner 30. Allez, ouais.
Bah, moi aussi.
Danse plus immortalité asiatique, j'en vois que ça.
Ouais. Ah bah, le côté asiatique, ça joue tout de suite. Hein.
Mais franchement, oui. Hein. J'espère que j'ai bien pris ça pour les jeunes. Je fais le signe.
Oh mon dieu. Faut le laisser au montage.
Ah oh non. C'est toujours moi qui me ridiculise.
C'est pas de notre faute.
On t'a pas sorti le cri de la bouche hein, non plus.